Et Thomas, j'ai présenté ce matin, mais il est en live là. Voilà, chef de projet de la coopérative. Voilà, bien, je laisse la place à lui.
Merci. Allez, c'est parti. Sans autre, on attaque. Merci aux courageux qui sont là. Ah ouais, merci, t'as raison. Pas besoin du masque. Quel bonheur d'être de prêcher. C'est super, on peut enlever le masque. Donc, du coup, cet après-midi, vous savez le programme, vous allez bosser. Et moi, je vais aller faire la sieste. Ah, yes. Non, en fait, je ne sais pas faire la sieste, donc j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Et en plus, c'est vrai. Hein. Même dans le train, j'arrive pas à dormir. C'est terrible. Bref. Donc, juste un petit check sur ce qu'on a dit ce matin. Vous vous rappelez, on a dit on va juste amplifier ça. Donc, comme promis, on le fait. Donc, le shalom, c'est 5 sens. Je suis un peu fort, non? Non, ça va? C'est bon. Ça va, vous dormez? Ça va, Auberge en ville, vous êtes là? Non, il ne joue pas le jeu, hein, c'est terrible. Donc, du coup, on a 5 sens sur Shalom. Et on va voir à chaque fois qu'il y a un verset qui est associé. Donc, la dimension spirituelle. Donc, on l'a dit hier aussi quand on était ensemble. Mais du coup, ceux qui étaient là hier, eh ben, c'est une révision. Mais c'est très bien parce que du coup, il faut vraiment que nos projets dans la société, mais aussi l'Église, s'inspirent de cette logique d'avoir une vision 360 degrés, comme on peut dire. Je rappelle que c'est Dieu qui a créé la terre, pas le diable. Je rappelle que la matière, c'est Dieu, pas le diable. Je rappelle que le temps qui s'écoule, c'est Dieu, pas le diable. Je rappelle que l'argent, c'est Dieu, pas le diable. Je vous fais comme ça tout le check ou pas? Parce que des fois, on est tellement spirituel que du coup, on néglige un peu toutes les choses de l'économie, de la politique, du sociétal et tout ça. Et juste quand il y a le mariage pour tous, là, on sort tous énervés. Ouais, mais il faudrait qu'on soit énervé aussi contre l'argent, sale. Non? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pas l'homosexualité. Et pourtant, il ne faut pas de l'homosexualité du tout. D'accord? Il ne faut pas de l'adultère non plus. Mais la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pourquoi on est au taquet pour la famille et pas au taquet sur l'argent? On devrait défendre l'argent propre autant, si ce n'est plus, que la famille. Mais ça, c'est parce qu'on a une vision très spiritualisante de la Bible. Mais la Bible n'est pas un livre spirituel seulement. Vous avez eu peur, hein? Le royaume de Dieu, il est concerné par le manger et le boire. C'est un verset du Nouveau Testament. Donc Dieu est concerné par tout. Il est concerné par notre bien-être. Il est concerné par le bien-être des autres. Il est concerné par le bien de la ville. Moi, j'ai entendu des prédications quand j'étais plus jeune où les gens disaient « la ville, c'est synonyme du diable ». Ah, bah la Jérusalem céleste, alors c'est pas une ville. Donc c'est quoi cette embrouille? Jérusalem, c'est le centre d'Israël, c'est une grosse ville. Dieu n'est pas contre la grande ville. Il n'est pas contre l'argent. Bon, en tout cas, forcément, la dimension spirituelle, on est tous d'accord. Enfin, j'espère. Rassurez-moi, entre deux sommes, vous êtes là, hein? Ça va? Entre deux sommes, hein? Le social. Tisser des liens humains, voire développer l'amitié. Alors, on a tous des raccourcis, l'amitié, c'est David et Jonathan, mais après, en dehors de ça, on n'a pas d'amitié. Mais la Bible est pleine d'amitié, et justement, ce pourquoi on a relevé qu'il y avait un très proche de Jésus, nous a-t-on dit ce matin, un certain Philippe dans le coin, Jean, ça démontre bien qu'il y a une relation particulière, et que donc Dieu est bien pour l'amitié, et que l'amitié, c'est pas négligeable. Donnez-moi quelqu'un qui va pas bien, il y a des chances qu'il n'ait pas d'amis. Je la refais, hein, parce que comme vous êtes encore en mode on sort du repas, c'est difficile de remonter. Je la refais ou c'est bon? Vous l'avez? Donnez-moi quelqu'un qui ne va pas bien. 90% du temps, il n'y a même pas d'amis derrière. Je ne parle pas de relations, je parle d'amis. Donc l'amitié, c'est fondamental. L'amitié, elle crée du lien affectif, mais elle permet aussi, la Bible l'a dit, qu'un frère montre par ses blessures son amitié. Blessure ici, c'est quand quelqu'un dit la vérité à quelqu'un d'autre. Normalement, on devrait compter sur ses amis pour nous dire la vérité. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que l'amitié n'est pas assez forte. Ouais. Allez, on continue, ce n'est pas le sujet, ça va, hein, heureusement. Politique, la dimension de la citoyenneté active. Donc on l'a dit aussi ce matin, politéomai. Je sais, je suis lourd, hein, je me répète, mais c'est volontaire. Parce que ça, si on a ça dans le viseur, si notre approche de la société, elle est basée sur ce sens du shalom, alors, comme le dit Jérémie 29:7, recherchez le quoi ? Donc nous, on a traduit le bien, mais le mot original, c'est rechercher le shalom de la ville dans laquelle je vous ai placé, en déportation, parce que votre shalom en dépend. Donc si vous regardez l'hébreu hein, de Jérémie 29:7, c'est deux fois le mot shalom. Alors nous, selon les traductions, c'est le bien-être, et après, un autre mot, je ne sais pas pourquoi, mais même le bien-être, ce n'est pas suffisant. C'est le shalom. Ça veut dire que l'être humain vit avec toutes ces dimensions-là. Mais même un franc-maçon, hein, je veux dire, ce n'est pas forcément le chrétien. L'être humain a besoin de ses cinq sens. Et donc le franc-maçon va trouver dans la spiritualité autre, ou quelqu'un qui pratique une religion, ou la sorcellerie, ou même un libre-penseur, il a une spiritualité. Même un laïcard, sa religion, c'est la laïcité. Donc tout le monde a une spiritualité et en a besoin. Donc on a tous une spiritualité. On a tous normalement besoin des autres. Normalement. Sinon, on finit en dépression. On a tous besoin d'être dans une organisation de ville, de pays. Sinon, c'est l'anarchie. L'anarchie est destructrice. Donc on a besoin de l'organisation d'une cité. On a besoin de l'économique. On fait comment pour manger des pâtes, si on a un Italien comme moi ? Pas de sous, pas de pâtes. Donc on a besoin de manger. Alors on dit souvent pour le pain quotidien. Et donc Dieu est concerné par le pain quotidien. C'est tellement, il est concerné qu'il nous a dit de prier notre Père avec le pain au quotidien. C'est pas rien. C'est une prière de, comment on va dire, structurante, si on peut parler comme ça, le Notre Père. C'est quelque chose qui structure notre spiritualité. Dedans, on parle du pain. Et nous, on spiritualise tout. Ben non, on doit spiritualiser aussi. Mais on ne spiritualise pas tout. On commence par la spiritualité, on commence par les choses d'en haut, par les choses invisibles, et on recherche les choses invisibles, mais pour mieux les vivre dans la réalité. On incarne. Bon, à force de dire le mot incarner, on ne sait plus ce que ça veut dire. Moi, j'aime bien dire matérialiser. Je suis contre le matérialisme, c'est-à-dire l'attachement au bien, mais je suis pour matérialiser le royaume de Dieu. Et du coup, ça veut dire tu le rends visible, tu le rends matériel. Les hommes et les femmes autour de nous doivent voir, doivent entendre. Je suis dans la politique, je suis dans les arts, je suis à l'université, je suis dans une entreprise, je suis fonctionnaire, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on est au quotidien, je le suis pour le royaume de Dieu. Et donc les gens doivent voir une différence. Et ce n'est pas nécessaire qu'ils sachent au début que je suis chrétien. Ce n'est pas grave qu'ils ne sachent pas qu'Esther est juive. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'arriver en retard, mais au moins on le dit. Ah, les Belges, malheur, malheur. Tu voulais arriver en catimini comme ça, tranquille ? Tu voulais arriver comme ça sur un espèce de... Oups ! Eh ben non, t'as vu. Toi aussi. Non, non, il n'y a pas de désolé, rien du tout. On verra si on accepte les excuses, mais on fera un concile d'abord de 15 jours. Comment ? Je ne comprends pas, j'entends pas, je ne comprends pas. Ah, je comprends. Les autres vont vraiment se demander ce qui se passe entre nous sur la Belgique. Hein. On vous expliquera un autre jour. comme ça, ça laisse un espèce de... C'est agaçant, les suspens. Hein. Donc, la prospérité de la ville, on est concerné. Et je rappelle qu'on est concerné par la prospérité de Babylone, Jérusalem. Nous, on voudrait bénir Jérusalem. Et Dieu dit aux Juifs déportés à Babylone, dans Jérémie 29:7 que je viens de citer, il dit à tous les déportés à Babylone... Recherchez le bien. Qu'est-ce qu'il est dit en contexte ? N'écoutez pas les prophètes. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent « Demain, Jésus revient. » Ah, allô ? Il y a quelqu'un au bout de la ligne ? N'écoutez pas les prophètes qui vous disent que demain, on retourne en Israël. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent que l'année 2022 va marquer le retour de Jésus. Parce que le calendrier juif le promet. Foutaise. Tous les juifs ne sont pas d'accord sur le calendrier. Il y a trois dates possibles. Donc déjà, c'est de la bêtise d'aller croire qu'il n'y en a qu'une et que du coup le monde juif a raison. Bah, comme ils ne sont pas d'accord sur la date, tu crois qui ? Celui qui te dit que c'est l'année temps en Israël ou l'autre année temps, on ne sait pas. Et les calculs de Shemitah, excusez-moi, mais ça saoule. Ça fait 5 ans, moi, que j'entends des prophètes dire que c'est l'année de la Shemitah, ça y est. Donc c'est l'année de la Shemitah, Jésus revient. Bah, tu sais quoi ? Moi, je crois que Jésus ne revient pas avant 10 ans, 20 ans, ou 30 ans, ou 200 ans, ou peut-être dans 1000 ans. Mais peut-être que toi, tu meurs cette nuit. Ou moi. Donc, je prends la voiture, je reprends sur un malentendu, je me fais accrocher, bam, je suis renversé, je meurs. Ben, si je suis mouru, il vaut mieux que je sois prêt. Donc, je suis prêt comme si Jésus revenait. Mais peut-être que Jésus ne reviendra pas du tout de mon vivant. Et il y en a ras-le-bol que nos milieux évangéliques, à chaque fois, sortent des dates et qu'on y croit et qu'on soit... Ben oui, c'est de plus pire en plus pire. Non, non, ce n'est pas de plus pire en plus pire. Rien de nouveau sous le soleil, les amis. Juste quand on est à la fin d'un cycle, forcément, la fin d'un cycle est à chaque fois pire que ce qu'on a vécu avant. Mais c'est juste la fin d'un cycle qui annonce l'arrivée d'un autre cycle, pas forcément le retour de Jésus. Un des signes pour le retour de Jésus, c'est que toutes les nations auront entendu parler de Jésus. Vous savez combien il reste de tribus non atteintes aujourd'hui ? Plus de 1000. Donc à moins ce qu'il se fasse dans l'année, je veux bien que Jésus revienne cette année. Il y a plus de chances que je meure cette année que Jésus revienne. Donc, le retour de Jésus, on s'y prépare comme si c'était hier, mais on investit le royaume de Dieu et la cité comme s'il ne revenait jamais de notre vivant. C'est Luther qui a dit ça. D'une autre façon, mais c'est Luther qui a dit ça. Il a dit, sois prêt pour la nuit prochaine, pour le retour de Jésus, plante un arbre et fais une entreprise comme s'il ne revenait jamais de ton vivant. Je ne suis pas luthérien, mais j'aime bien cet aspect de Luther. J'aime moins le côté contre les juifs, mais j'aime bien ce côté-là de Luther. Et je pense qu'il est biblique. Ok. Et donc, oui, juste pour finir avec l'économie, c'est que il y a plusieurs versets dans le Proverbe qui disent que la façon dont on traite l'économie dans une nation ou dans une ville, ça produit le bien-être de la ville. Et donc, mon bien-être dépendant du bien-être de la ville, j'ai intérêt à ce que ma ville aille bien. C'est quoi le problème de ma ville ?
Bon, je sais pas.
Non, mais c'est quoi le problème d'auberge en ville ?
Bon, ils ont besoin de Jésus.
Ouais, bon, ça, c'est tous les hommes. Hein. Et c'est toutes les villes. C'est quoi le problème d'auberge en ville ?
Bon, je sais pas.
On voudrait créer une antenne, pourquoi faire ?
Bon, je sais pas.
Ouais, bah avec ça, on va pas loin. Néhémie fait le tour de la muraille. Hein. Et il check tous les points qui vont pas pour dire on retape. C'est quoi Néhémie ? Vous connaissez l'histoire de Néhémie ? Il arrive après qui ? Après Esdras. Esdras, c'est quoi ? Il a fait quoi, Esdras ? Alors, il a pas fait de la choucroute, c'était pas à l'époque. Les lasagnes non plus, c'est les Italiens. Il a pas inventé la poudre à canon. Esdras, il rétablit le temple. Néhémie rétablit la muraille. Néhémie nous dit que être que sur la spiritualité, c'est dangereux. Il dit qu'il faut se mettre la spiritualité au centre et en premier, donc le temple reconstruit. Oui, mais quand le temple est reconstruit, ça ne suffit pas. Dieu veut que la ville soit reconstruite aussi. Oui, mais c'est Néhémie, c'est l'Ancien Testament. Des clous ! C'est aussi le Nouveau Testament qui le dit. Je l'ai déjà cité ce matin, on va le redire encore cet après-midi. Donc, il y a la dimension personnelle. Je suis heureux, je suis bien... Le sens donc de Shalom, c'est être solide dans ses os, dans ses os. Donc ça veut dire une bonne santé. Moi, j'ai vérifié donc auprès de mon beau-frère qui est juif, je dis, est-ce que quand je te dis Shalom, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il me dit ça, les quatre, et il dit le dernier, et c'est être bien dans ses os. Alors je dis, mais ça veut dire quoi ? Donc c'est physique ? Il me dit, ah non, 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 ça donne aussi le sens d'être bien mentalement, d'être solidement ancré dans sa vie. Ah, intéressant. Bon, je ne vais pas écouter juste la voix de mon beau-frère. Donc je check un autre juif et je dis, allez, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Shalom ? Et donc les mots ne sont pas forcément les mêmes, on arrive toujours à la même chose. Parce que c'est ce sens-là que Shalom a en hébreu. Et si vous prenez des traductions, si vous avez des traductions linéaires de l'hébreu, vous avez les 5 sens qui sortent là. Donc 3 Jean 1, c'est « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines, surtout celui spirituel et jamais celui de l'économie. » Vous avez aussi cette version ? Ah, même l'après-midi, vous contestez ma version biblique. Vous n'avez pas encore lu l'évangile selon Saint-Luc Maroni ? Macaroni. Donc, l'épanouissement personnel, le développement personnel. Moi, j'entends plein de pasteurs s'ériger contre le développement personnel. Ils ont raison et tort. Ils ont raison si le développement personnel est un aboutissement, et dans ce cas-là, c'est diabolique. Mais évacuer le développement personnel de sa vie, c'est aussi diabolique. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut notre bien-être. Il nous a créés pour qu'on vive heureux. Bon. Ah, merci. Hélène est là, les autres, je ne sais pas encore. Même Philippe, il dort. Alors, je vais te dire, c'est inquiétant. Allez, voilà, c'était juste pour une remise en bouche et pour réinsister un peu lourdement sur le shalom. Et donc, si j'ai envie d'entreprendre une entreprise, de créer un projet professionnel, ou de reprendre un projet professionnel, ou de participer à un projet professionnel, bon, en dehors du bâtiment, parce que le bâtiment, ça ne sert à rien. Donc, je veux que mon projet soit appuyé sur le shalom. Mais je suis salarié, pareil. Comment, en tant que salarié, je peux influencer mon entreprise? Et donc, de plus en plus, en tout cas depuis 5 ans, on parle d'intrapreneuriat. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend quelque chose de lui-même ou qui reprend une entreprise existante. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui influence depuis l'intérieur son entreprise. Alors, c'est plutôt des gens qui ont une position pour le faire. Moi, j'ai été intérimaire pendant 6 ans. Je peux vous dire que j'ai fait de l'intrapreneuriat pendant 6 ans. Pourtant, je n'avais pas de poste de cadre. J'ai cherché à influencer partout où j'étais. Des fois sur les valeurs, des fois sur le comportement, des fois sur l'argent. Non, non, monsieur le maire, tu ne peux pas payer la contravention de quelqu'un qui a utilisé le véhicule du cabinet du maire un week-end et qui s'est pris un retrait de permis. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Parce que je ne crois pas que la personne du cabinet du maire travaillait le dimanche. Donc tu ne peux pas faire passer ça en changeant la date pour que ce soit un lundi. C'est pas droit. Oh, Luc, tu fais... Comment ? Je te gonfle ? Très bien, je vais te gonfler tout le mandat. Donc, sois sûr que je vais t'embêter tout le mandat pour que tu sois réglo. Si je ne l'aurais pas mis sur la liste. Ben oui, mais maintenant, c'est trop tard, je suis élu. Alors maintenant, pour me démettre, il faudra aller voir le préfet. Donc, maintenant que je suis là, tu me gardes et tu fais avec. Nombre de fois, on a changé des délibérations au conseil municipal juste parce qu'il y avait Maroni là, qui nous faisait... Eh ben, on est là pour embêter les autres, pour que les valeurs droites soit remise à l'endroit, mais dans l'entreprise, à l'université et tout le reste. Alors, on va donc faire un petit travail. Vous allez travailler et c'est là où je vais aller à la sieste.
Oh non, je ne vais pas travailler.
Mais si, ça fait du bien. Donc, Jérémie 29,7, on vient de le citer. Hein, c'est là où on est en déportation. Alors, si Dieu dit que Babylone doit être... on doit travailler pour Babylone, à plus forte raison pour Aubergenville. Parce que de mon point de vue, Aubergenville n'est pas plus pire que Babylone. On est d'accord. Donc, si Dieu a dit à des Juifs de rechercher le business pour une ville, vous imaginez le choc pour les Juifs, hein. On comprend que Jérémie ait eu du mal à faire passer cette prophétie, parce que tous les autres prophètes disent « Non, 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 on ne s'investit pas ici, hein, les gars. Demain, on est à Jérusalem. » Demain à Jérusalem. Lui, il dit non, non, pas demain à Jérusalem, on est là encore pour un bon temps. Qu'est-ce qu'il dit, vous savez, dans le texte ? Mariez vos enfants, plantez des jardins, construisez des maisons, développez l'économie et intercédez. Et en cinquième, si j'avais pu conseiller celui qui a écrit la Bible, je lui aurais mis intercession en premier. Mais heureusement, ce n'est pas moi qui ai conseillé celui qui a écrit la Bible. Heureusement. Donc Dieu a décidé qu'on devait agir, mais aussi prier. Alors il y a des versets qui te disent « Prie avant toute chose », et puis lui, il te met la prière à la fin. Pff, c'est casse-pied. Eh oui, Dieu ne veut pas qu'on soit dans des boîtes. Il veut qu'on vive une vie en dépendance avec lui, qui nous remet en question régulièrement. Et les prophètes sont là pour nous embêter, pour ne pas nous embourgeoiser. Parce que la Bible s'embourgeoise très vite. Le petit confort personnel, mon écran télé incurvé qui fait 5 mètres sur 10. J'exagère, bien sûr. Ma cinquième propriété, mes 3 voitures, mes 3 piscines. Et on peut s'embourgeoiser facilement et construire nos maisons au lieu de nous préoccuper de la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, ce n'est pas ce truc. Hein. Ce truc ne vaut rien. Il est utile, mais il ne vaut rien en spiritualité. La maison du Seigneur, c'est ce qu'on construit les uns les autres dans son royaume. Et puisque tout le monde dit Amen, nous pouvons passer au point suivant. Non. On ne peut pas se rattraper après coup. C'est trop tard. Non, jouez pas à ça. Annoncez l'évangile avec son style. Donc, on va faire un petit test. Vous allez cocher des cases et après, on va voir ce que ça donne. Et donc, c'est Bill Hybels, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est un outil très utile pour dire que chacun évangélise dans son style. Nos églises évangéliques ont formaté, ont franchisé une façon d'évangéliser qui est terrible et qui enferme les gens et qui les culpabilise. Dieu nous a laissé la liberté d'évangéliser avec plusieurs styles et on les trouve tous, les six, là, dans la Bible. Je vous assure, une fois qu'on aura fait le test, vous allez pouvoir découvrir ça. Donc, vous avez 3,5 secondes pour remplir le test et après quoi, on verra les résultats. Non, vous prenez le temps de répondre au questionnaire. C'est pas compliqué, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher. C'est un par personne, pas par famille. Hein. Ça compte pas. Hein. C'est pas parce qu'on est une seule chair, mais du coup, on se prépare. Non, sinon je savais que j'allais vous perdre pour toute l'après-midi, donc il faut quand même que j'ai l'air un peu de bosser, quoi. Allez, c'est parti, on y va pour l'analyse de tout ça. Donc il y a 6 profils différents. Cette étude a été faite par l'église de Bill Hybels. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est 3000 personnes à peu près qui ont été auditées sur un laps de temps assez conséquent, avec des recoupements de comment les évangélistes voyaient les choses. Ils ont sondé plusieurs évangélistes aussi. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça donne une belle lecture et je trouve juste, en tout cas surtout, que ça libère chacun dans son style. Et du coup, il n'y a plus l'obligation d'évangéliser que en étant témoin direct, ce qui est la partie la plus utilisée dans le monde évangélique aujourd'hui. Et donc, en général, quand on parle d'évangéliser, on parle de témoigner directement. Sauf que il n'y a pas que ça. Et que du coup, on enferme les gens dans une lecture qui peut être culpabilisante, voire destructrice ou paralysante. Ben, comme je ne fais pas ça, je ne dois pas être un bon chrétien. Tu comprends, si tu n'as pas parlé à 10 000 personnes dans le métro, c'est que tu n'es pas un chrétien. Je la fais lourd, hein, mais... Une fois, j'étais dans une convention, j'étais orateur avec un autre orateur, très connu en France, et il commence à dire « Vous avez évangélisé combien de personnes cette semaine ?» Je ne te dis pas la façon de culpabiliser, c'est pas mal. Donc, tu as quelques personnes qui lèvent la main, mais qui ne sont pas majoritaires, et il dit « Bon, alors on va dire dans le mois qui vient de passer. » Donc, quelques mains qui se lèvent en plus. « Bon, allez, je vais tolérer les 6 derniers mois. » Voilà, là, monsieur est bon. Oula. Et donc, tu as peut-être allez, 25% de l'auditoire, un quart peut-être, qui lève la main. Et dit « Et les autres, vous n'avez pas évangélisé dans les 6 mois qui viennent de passer ?»« Oh, moi, je me lève, j'étais au premier rang, je trouve ça insupportable. Je me lève, je vais au fond de la salle et je fais « Faudrait arrêter, mec. » Non, mais c'est insupportable, cette culpabilisation-là. Et en fait, elle est grossière avec ce gars-là, ce jour-là, dans une conférence, mais elle est insidieuse dans nos églises. On a souvent laissé penser que si tu n'avais pas évangélisé, bon, tu es vraiment un chrétien de seconde zone. Hein. Eh ben non. Celui qui parle doit parler. Et celui qui a une autre façon doit le faire de sa façon. Donc nous devons être des ambassadeurs de Christ, mais nous ne sommes pas tous dans le même bois. Et c'est heureux et c'est très bien. Alors, si on avait du temps, on recouperait avec la personnalité de MBTI et on recouperait avec les tests de talent et on recouperait aussi avec les tests d'entrepreneuriat qui ne sont pas réservés aux entrepreneurs mais aussi aux intrapreneurs, à ceux qui créent des associations, ceux qui participent, enfin tout le monde en fait. Et quand on croise tout ça, alors il n'y a pas de test parfait, y compris Carrière Directe qui est soi-disant chrétien. Non, il n'y a pas de part. Aucun test, même fait par un chrétien, ne peut faire le tour de la personnalité puisque nous ne sommes pas capables de séparer jointure et moelle. Intelligence et esprit. Donc, je vous recommande, que ce soit chrétien ou pas, d'avoir plusieurs tests. Je ne parle pas des tests de magazine, hein, qui ne valent pas grand-chose. Je vous parle de tests sociologiques, éprouvés, testés, et qui donnent du sens. Et à ces tests-là, que je viens de vous citer, talent, personnalité, type d'intelligence, je vous encourage à ajouter ce genre de tests, parce qu'ils complètent, et ils vous donnent une photo approximative, hein, il n'y a pas de science exacte en personnalité, mais voilà, c'est intéressant. Comme normalement, quand on met des mots sur soi, ça doit nous libérer dans l'action, et pas nous mettre dans une boîte. Et on ne va pas mettre les autres dans les boîtes non plus. Donc on parle de tendance, donc maintenant on va regarder les résultats, on parle de tendance, on ne parle pas d'absolu. D'accord ? Si tu découvres que Jérôme, il a cette façon, va pas lui demander toutes les semaines, alors, on a fait son travail, Jérôme ? Hein ? Voilà, ça c'est affreux, c'est pourri, c'est destructeur. Donc on est là pour s'exciter, c'est la Bible qui le dit, s'exciter, c'est-à-dire s'encourager vivement aux actions et aux bonnes actions. Mais on ne va pas trucider ou faire des commentaires pas gentils. Alors, je pensais faire autrement cet après-midi, donc j'avoue que je n'ai pas pris le temps de faire... Je n'aime pas faire ce genre de choses, ce n'est pas beau pour moi. Enfin, ce n'est pas fait pro, mais tant pis, c'est comme ça. Donc, du coup, il y a la frontale, le style frontal, plutôt, qui est une approche osée, le style cérébral, qui est une approche intellectuelle, le style témoin, qui est une approche directe, le type interpersonnel qui est une approche relationnelle, le type stratégique qui est une approche réfléchie, le type solidaire qui est une approche serviable. Et là, du coup, on libère tout le monde dans sa façon d'être. Et du coup, il n'y a plus de formatage. Et à l'intérieur de chaque style, chacun son style. Donc, on peut, après, autant de personnes qu'il y a, on peut changer de sa façon. Je vais laisser tomber la partie descriptive, mais on va prendre les exemples.
Mais y va, comment tu copies le truc ?
Tu peux. Non, pardon, excuse-moi, c'est pour la blague. Philippe, tu me connais, enfin, zut. Non, pas toi. André, oui, mais pas toi. Donc, dans acte 2, c'est Pierre. Donc, il y a ce côté fougueux, un peu intrépide, ce côté un peu d'aller doser, de dépasser les limites conventionnelles. Pierre, il rentre dans l'art, hein, on peut le dire. Même, il rentre tellement dans l'art, des fois, il coupe l'oreille. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, on rappelle qu'il est quand même le premier à prêcher parmi les Romains. Hein. Et on se rappelle, il y a un truc là qui descend là du ciel. Là, ça vous rappelle quelque chose là ? Ouais, ça vous cause ou on n'a pas la même Bible ? Il y a un truc là qui descend du ciel là dans une vision, hein, c'est ça ? Hein ? Il y a quoi dedans ? Il y a un porc. Pas très cachère tout ça. Donc, il y a ce côté que Pierre a eu dans son tempérament et que Dieu lui a aussi demandé. Et en général, Dieu nous demande ce pour quoi on est fait, ou il nous fait pour correspondre à ce qu'il attend de nous. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que notre personnalité correspond à notre destinée correspond à notre personnalité. Donc si Dieu nous a donné des œuvres préparées d'avance, celles qu'il a données à Philippe ne sont pas celles de Florence. Ben heureusement. Et encore moins celle de René. Bon, René, il n'en a pas du tout. Là. De toute façon, c'est encore autre chose, là. On a chacun des talents. Et on a chacun une mission. Et on n'a pas besoin de faire celle d'Olivier. Ben non. Et la mienne ? Eh ben, c'est la mienne. Donc, on ne se copie pas. On ne se compare pas. Libérez-vous du regard des autres. Pas dans le sens « je m'en fous des autres », mais dans le sens que si c'est Dieu qui me l'a donné, qu'est-ce que tu veux que Jérôme fasse ? Tu crois que Jérôme, il peut piloter ma vie ? vas-y, commence à te battre, j'arrive. Exactement, bien, c'est une bonne réponse. Moi aussi, j'ai déjà affaire avec moi. C'est à mon fils, à chaque fois que je lui dis « je t'aime », il me dit « oui, moi aussi, je m'aime ». Ok, d'accord, t'es pas obligé d'avoir l'humour de ton père. Donc voilà, ça c'est le même genre. J'ai déjà assez affaire avec moi-même, ouais, tout à fait. Donc du coup, on est qui on est ? Par la grâce de Dieu, sans provoquer les autres, mais on fait ce qu'on doit faire, pas comme les autres. Et si l'Église libère, et c'est le but d'une Église missionnelle, si l'Église libère chacun dans son talent, dans sa capacité, sa spécificité, « Ouais, moi, je voudrais prêcher comme Luc », je vais te dire, pas trop de Luc, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça saoule. Hein. Alors, le sabic, 3 carrés, au bout du 4e, on meurt. Il y en a déjà 3. Ben oui, exactement. Chacun son style, chacun son talent, et heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, ce serait une catastrophe. Donc, Dieu nous a donné un talent, on doit l'utiliser. Donc Pierre, c'est un fougueux. Paul, c'est un cérébral. J'aime beaucoup de Paul quand il est dit qu'il cherche à convaincre les gens. Mais moi, j'ai envie de rétorquer, si j'avais été le conseiller de celui qui écrit la Bible, t'étais pas là, Thomas, ce matin. Mais j'ai dit à plusieurs reprises que si j'avais pu conseiller celui qui a écrit la Bible, bon, en vrai, heureusement que non. Mais je sais pas, j'aurais dit, Paul, non, tu peux pas convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Oui, ben Paul a cherché à convaincre les gens. Vous avez remarqué le nombre d'heures qu'il a passé? Il passait jusqu'à la 13e heure. La 13e heure, c'est quand? En commençant tôt le matin, Paul, pendant 3 ans, dans le même lieu, a débattu. Le mot débattre, du mot philosophique, débattre. Il a débattu pendant 3 ans, au moins 6 heures par jour. Et après ça, nous on dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas la peine de chercher à convaincre les autres. Bah, si c'est pour convaincre dans le sens de les dominer, ferme de bouc, comme on dit dans le Nord. Ferme ta bouche. Mais si c'est dans une logique cérébrale, parce que c'est ton approche, mais fais-le. Et laisse pas l'église évangélique, et surtout charismatique, te dire que le raisonnement, c'est pas bien. Non, le raisonnement sans Dieu, c'est pas bien. Comme la sexualité non soumise à Dieu n'est pas bien. Hein? Donc le raisonnement, c'est Dieu qui l'a créé, c'est pas le diable. Et moi, je supporte plus que dans les milieux chrétiens, et surtout charismatiques, on dise « Non, non, mais réfléchis pas, hein, juste obéis au Saint-Esprit !» Mais c'est quoi cette manipulation mentale? C'est quoi ce déni de raisonnement que Dieu nous a donné? Donc on n'est pas tous des raisonneurs, on n'est pas tous des cérébraux, mais il y en a, et c'est fort heureux. C'est fort heureux que nous ayons des gens cérébraux. S'il n'y avait que ça, ce serait fatigant et boring. C'est tellement boring qu'il y a un gars qui est mouru pendant qu'il écoutait Paul. C'est que ça devait être assez long et assez ennuyeux et endormissant. Et on ne voit pas ça. Paul, il prêche tellement longtemps, le gars, il dort, il s'endort, il est au bord de la fenêtre, il tombe, raide mort. Waouh! Ça, c'est charismatique. Hein, c'est incroyable. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais je veux dire, ce qui est intéressant aussi, c'est le début. C'est-à-dire, ah, il est mort parce qu'il écoutait Paul. Waouh, ça devait être long. Et Paul, d'ailleurs, lui-même, il dit, « Eh les gars, réglez vos problèmes avant que j'arrive, parce que si jamais je le fais, quand je suis sur place, ça va dégommer. Hein. » Vous allez dire, nous, on voit le Saint Paul. Moi, je vais te dire, Paul, il n'est pas toujours cool. Hein. Mais comme c'est Saint Paul, du coup, nous voyons tout ce qui est nickel. Oui, ben Paul, il a des côtés dérangeants. Peut-être qu'on n'aimerait pas l'avoir aujourd'hui. En tout cas, c'est un cérébral. J'aime beaucoup aussi, tu vois, il est à Athènes, il se balade, et il dit, « Eh les gars, j'ai vu un hôtel à Zeus, j'ai vu un hôtel à Jupiter, Macron. » Non, non, oui, c'est Jupiter. Oui, c'était pas Macron. Et oh, mais j'ai vu un hôtel à un dieu inconnu. Vous savez quoi? Je le connais, lui. Mais c'est génial, cette approche. Une approche où on connaît la société et où on peut surfer sur la société. Moi, je fais ça à l'université à fond. Je surfe sur les trucs qui existent déjà. Je peux surfer sur Confucius, sur tout ce que vous voulez. Platon, Aristote, c'est top. Et tu glisses un truc, disais... Hein. Vous savez qui a dit qu'il ne fallait pas... ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est qui l'a dit, ça? C'est Dieu. Non, c'est Confucius. Mais Dieu, il a dit le contraire. Il a dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais effectivement, Confucius, que les évangéliques ne connaissent pas, mais cite souvent, je fais souvent la question, qui a dit... Je l'ai fait le week-end dernier dans une église où j'étais, je ne dirai pas laquelle, puisque c'est une église de notre réseau. J'ai dit « Attention, il y a un piège !» Et j'ai écrit à l'écran « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bah, » J'ai quand même une vingtaine de personnes qui m'ont dit la Bible. Ben non, c'est Confucius. Et ce n'est pas bien. Mais nous, on se contente souvent de ne pas faire le mal. Jésus, il voudrait qu'on fasse le bien. Et donc, on est pécheur quand on ne fait pas ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Donc c'est bien de débattre, aussi, pas que. Donc après, il y a le témoin direct, ça c'est cool. L'aveugle, il dit, « Hé, je voyais rien, maintenant je vois bien !» C'est énorme, c'est direct, c'est cash. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de « Je vais te prouver que Jésus est bien né dans l'Empire romain, il y a des preuves qui disent que Joseph a dit que, et puis voilà, les preuves de Jésus qui a existé pour du vrai. » Ah bon, ah waouh, génial.
Oui, bon, il y a des gens, tu leur dis que Jésus a existé, qu'il y a des preuves, ils te disent « c'est bon, pff, tu me saoules ». Et puis il y a le gars qui arrive derrière, il dit « waouh, j'étais dans une chaise roulante, mec, je suis debout maintenant grâce à Jésus ». Et l'autre se dit « waouh ». Et pendant que le gars à côté lui a débattu, il n'a rien écouté, mais là il écoute indirect. Le contraire est vrai aussi. Il y a un gars, il arrive, il dit « ouais, Jésus m'a guéri ». Et l'autre lui dit « oh là là, quel allumé ». Encore un illuminé, encore un mec qui a cru que c'était un miracle alors que c'est la médecine qui l'a guéri. Et celui-là va être hermétique au direct. Mais par contre, tu lui démontres que Jésus a existé et qu'il a dit et que ceci et cela, le gars dit « waouh ». Et donc dans la société, on a tous les gens, tous les publics. Et heureusement donc qu'il y a tous les styles. Mais si on enferme l'Église dans un style juste d'annonce, eh ben on prive tous les autres d'une façon d'aborder l'Évangile. Donc le témoin, là, l'aveugle, c'est top. Et donc là, il y a marqué, parfois le débat théologique doit céder la place pour raconter avec passion et fraîcheur la trace de ce que Jésus a fait dans sa vie. Waouh ! Et là, tous les évangéliques ou les évangélistes disent « Amen ». Oui, mais il n'y a pas que les évangélistes dans la Bible. Bon, les journalistes croient qu'on est tous des évangélistes. Hein. Ils n'ont pas compris la vie. C'est pas grave, on ne leur veut pas. Matthieu rencontre Jésus, il bâtit un réseau de relations. Et on voit, il fait profiter le milieu professionnel. Jésus va manger avec les publicains. Ben, c'est sur une proposition de réseautage de Matthieu. C'est pas mal, vu comme ça. Donc c'est dans Luc 5, 27. Donc on invite des gens. Et on profite que Jésus est là et bam, autour d'un repas, Jésus annonce l'évangile. Mais il y a bien quelqu'un qui a fait du réseau et qui a invité d'autres personnes. Donc l'approche relationnelle est excellente aussi. Et puis il y a l'approche réfléchie. Ce n'est pas l'approche intellectuelle. Hein. C'est plutôt je réfléchis à la stratégie. La Samaritaine, là, elle invite les gens de son village à rencontrer Jésus et elle le fait en disant... « Ouais, mais il a su dire ce qui était de ma vie, allez le voir. » Donc elle fait un petit teasing, en fait. Elle a une stratégie pour que les gens aillent au puits là, et qu'ils rencontrent Jésus. Et puis Dorcas, comme vous voulez. C'est une couturière renommée. Le verset là dans Actes est intéressant parce qu'il est dit que tout le monde était interpellé par ses actions. Pas par l'annonce de l'Évangile, par ses actions. Et donc tout le monde a pleuré cette dame qui était partie. Et donc le moment de la résurrection, c'est un moment de raccorder tous ceux qui ont été touchés par son action. Si elle n'avait pas fait tout ça, elle serait ressuscitée dans l'anonymat. Donc il y a quelque chose là que Dieu fait, qu'il utilise au travers de cette personne. Ok, ça marche ? Des questions ? S'il y a des questions, c'est que vous n'avez pas écouté ? Non, c'est une blague. C'est bien Thomas, je vois que tu retiens vite. Alors, pareil, je n'ai pas de mise en page là-dessus. Donc vous avez des points forts là. Et du coup là, vous comprenez les questions qui vous suivent. Donc vous avez des questions en dessous du tableau là. Vous avez mis vos résultats. Hop là. Et donc il y a « Quels avantages reconnais-tu dans ton style ?» Ou à ton style. « Quelles faiblesses, limites identifies-tu dans ce style ?» Dans quelles circonstances ton style est-il tout particulièrement efficace ? Donc du coup, vous allez pouvoir faire ça à partir des questions qui sont là. Donc, le frontal, il débloque des situations qui tournent en rond, il provoque une réaction, voire une résistance. Hein, c'est pas, il y a aussi le côté négatif. Les risques, c'est qu'il est tellement frontal qu'il n'écoute plus ses interlocuteurs. Ah ouais, hein, je savais bien. Hein. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le laisser faire, parce qu'il accroche aussi des gens. Donc oui, il y a des faiblesses, c'est normal, personne n'est parfait. La suggestion, c'est de dépasser la spontanéité et de s'enraciner bibliquement afin d'avoir des arguments bibliques. C'est pas moi qui ai pondu ça, hein. je l'ai macaronisé, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, marronisé, enfin comme vous voulez. Hein. Le deuxième, le cérébral, il anime des conférences, des forums, des discussions, il peut animer des cafés théologiques, des cafés débats. Vous savez, on est en train de créer des tiers-lieux partout en France. Vous savez que le tiers-lieu, c'est des endroits où on accepte la spiritualité. Et donc, on peut arriver. Alors là, c'est plutôt pour les cérébraux. Alors les tiers-lieux, c'est des endroits où on peut télétravailler. C'est des endroits où on peut co-worker, travailler ensemble dans un même lieu. Et de plus en plus, les tiers-lieux, c'est une nouveauté en France, mais ça existe déjà dans le monde anglophone depuis un moment.
Et donc, c'est vraiment un espace de vie, de travail. Et donc, normalement, un tiers-lieu n'est pas que du coworking, c'est pas que pour le boulot. C'est aussi un endroit où on peut boire du café, échanger, papoter avec des gens qui sont bénévoles, qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas de boulot particulier dans cet endroit. Et du coup, c'est un endroit où on peut aussi y placer quelques personnes qui ont une approche comme ça, qui peut être plus dans la démarche d'échanger, de partager. On ne va pas y mettre trop les frontaux, mais en tout cas, les cérébraux et les réfléchis, là, c'est la bonne place pour, par exemple. Et donc, voilà, ils ont une capacité à faire des débats où... Nous, on a fait ça dans notre coopérative. Hein. On a fait des débats. On les avait commencés avant le fameux grand débat des Gilets jaunes, vous savez. Donc, on avait commencé ça avant les Gilets jaunes. Donc, on s'est retrouvés au milieu du débat officiel. J'ai donc mené un débat officiel. Je pense que j'ai été le seul chrétien à faire ce débat. J'ai remonté ça parce que c'était obligatoire. Il fallait remonter ça à l'Élysée. Donc, j'ai envoyé le compte-rendu de ce qu'on a fait dans le débat dans notre coopérative. Il y avait des chrétiens, mais pas que. On a fait remonter des choses qui parlaient aussi de spiritualité sur un malentendu. Je ne sais pas qui l'a lu. Pour le moment, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Parce qu'à la préfecture, j'ai été identifié. Maroni a fait un débat dans sa coopérative. La police est passée. Elle a regardé qu'est-ce qui se passe. Et le préfet, il a dit, Maroni, vous faites quoi ? Ben, je fais une conférence comme tout le monde. Hey, monsieur le préfet, je fais ce que le président il a dit. Hein. Le chef de on, le phare à on, le chef de nous, tu sais. C'est bien, il y en a deux, trois qui... Merci, merci les copains. Donc du coup, voilà, on peut aussi surfer sur l'actualité. Il y a plein de moyens pour surfer sur l'actualité. Et donc forcément, chacun va surfer avec son feeling, son filtre. Mais fais-le, faites-le, faisons-le. Et on va toucher plus de personnes. Le problème, c'est qu'on peut être intellectuellement... On peut être tellement intellectuel qu'on en devient déconnecté du Saint-Esprit. Ah bah oui, c'est le risque. Ah donc, faut pas le faire. Ah bah non. Des faux pasteurs, des faux prophètes, c'est pas une raison pour pas qu'il y ait des pasteurs et des prophètes. Des adultères, c'est pas une raison pour pas qu'il y ait des gens mariés. Donc, c'est pas parce qu'il y a un risque qu'il faut pas le faire. C'est juste que celui qui est dedans, il sait qu'il y a un risque. Moi, je suis justement cérébral. Ben, je sais les risques que j'ai, et je le sais depuis longtemps. Donc depuis longtemps, je me suis fait un défi que je dois être parmi les adorateurs, parmi les premiers. Pas dans le sens où je fais un match avec les autres ou en concurrence. Hein. Mais je sais que j'ai intérêt plus que n'importe qui d'autre d'être bien connecté avec le ciel, pour pas que l'intellectuel devienne de l'intellectualisme. Parce que le social, c'est bien, le socialisme, non. L'intellectuel, c'est bien, l'intellectualisme, c'est pourri, diabolique. Et on peut dire ça de tout. Le légal, c'est bien, le légalisme, c'est pourri. La morale, c'est bien, le moralisme, c'est pourri. Hein, vous avez entendu déjà ce matin, ça. Donc, c'est bien d'identifier ces failles. Tiens, tout d'un coup, ça fait bizarre de revenir devant le micro. C'est malin de parler sans micro. Donc, on doit aussi développer la suggestion de développer le côté relationnel pour compenser le côté professeur. Moi, je ne suis pas concerné. Le témoin, eh ben, il n'a pas de complexe. Lui, il est dans le train, il est dans le métro, il est à la sécu avec son numéro et il attend désespérément son tour. Et qu'en plus, il y a des gens qui lui prennent son tour, bah, il sait que c'est une bonne occasion pour rester encore plus longtemps à la sécu et prêcher. Bah, qu'il le fasse, mais qu'il ne me demande pas de le faire. Parce que moi, si je suis à la sécu, j'attends. Et je sors mon ordinateur et je bosse. Mais chacun son style. Et du coup, on ne se culpabilise pas les uns les autres. Et on ne s'écrase pas les uns les autres. Tu n'es pas un témoin direct. Bah, et toi, tu rends service à personne ? Toi, c'est ridicule comme truc. On ne va pas se tacler sur ce qu'on n'est pas ou sur ce que l'autre est. Non, on libère l'autre et on voit l'autre comme étant supérieur à nous. Et on dit, super qu'il y ait des gens relationnels parce que moi, je le suis moins. Alors, je suis surrelationnel dans le sens social, mais je ne vais pas aller spontanément vers quelqu'un. Pourtant, je n'ai aucun complexe. Par contre, si quelqu'un me branche dans le train, je peux te parler 2 heures, 3 heures d'affilée et ce n'est pas un problème. Hein. Je rencontre la présidente de la Croix-Rouge dans le train. Par inadvertance, on a un problème de train, on reste bloqué 5 heures. On est dans le même compartiment, il n'y a personne d'autre que nous deux. Au bout d'un moment, elle me dit, bon, monsieur, je vais lui laisser ma carte. Je ne vous drague pas. Hein. Vous n'avez pas besoin de dire que vous ne me draguez pas. Elle dit, mais ça ne se fait pas, normalement, de donner comme ça sa carte. Je n'ai jamais fait de ma vie, je le fais pour une première fois. J'ai l'impression que vous avez des valeurs. Je ne sais pas d'où elle sort, j'étais sur mon ordinateur. Tu sais, quand tu es sur un ordinateur, ça ne se voit pas beaucoup que tu as des valeurs. Hein. Bon, peut-être qu'on voit que tu as de la valeur financière parce que tu as un Mac. C'est une blague, Thomas, c'est une blague. Eh oui, ne vole pas, ne convoite pas la propriété de ton ami. Voilà, donc, et du coup, on parle, et elle me dit, ah, mais vous êtes pasteur, mais c'est énorme, c'est énorme. Vous savez qui est Henri Dunant? Bah oui, je sais qui est Henri Dunant. T'as cru quoi, sœur? Elle me dit, mais c'est génial que des protestants comme ça soient impliqués dans la société, bravo à vous. Ben, moi, je suis pour rien, moi, c'est Dunant et ses copains, je suis pour rien, moi. Je suis protestant, mais j'étais pas là à son époque. Ah, mais bravo, et puis tout ce que vous avez fait. Elle me dit, vous avez fait d'autres trucs. Je dis, oui, Amnesty International. Mais pas que, non, il y avait aussi des catholiques. Et vous savez qu'on a fait aussi Greenpeace? Greenpeace. Et là, les évangéliques disent Greenpeace? C'est les chrétiens? Eh ben oui. Make a wave movement. D'arrêter la prolifération des armes. C'est comme ça que Greenpeace est né. Bon, aujourd'hui, il est un peu gauchiste. Un peu. Bon, je voulais être gentil, hein. Faut pas me pousser, sinon je peux en dire plus, hein. Mais voilà, on a laissé des traces dans l'histoire. La Croix-Rouge, bien sûr, on vient de le dire. Oxfam, mouvement à Oxford avec des protestants. Oxfam qui est la plus grande ONG à lutter contre l'argent sale et qui vous dit chaque année combien de gens se sont fait des milliards en plus. Et en pleine Covid, vous avez vu les résultats? Les 10 personnes les plus riches du monde, là qu'on est dans les fortunes les plus élevées, ont gagné plus que les 10 millions de l'autre côté. Mais c'est pas grave, le monde va ainsi. Bref, voilà, donc on peut développer des choses comme ça. Donc moi, je ne suis pas un témoin direct, mais si vraiment on vient me chercher, je peux le faire aussi. D'accord? Mais ce n'est pas naturel, et donc ce n'est pas grave. De la même façon que quelqu'un qui est solidaire, qui n'est pas solidaire, il faut espérer quand même qu'il aime un peu les gens, mais ce n'est pas son premier réflexe. Allez, on passe à interpersonnel, créer des cercles d'amis. Être tellement relationnel, le risque, c'est qu'on en oublie que la personne doit faire un choix. C'est tellement un ami qu'on le traite comme un ami, on oublie de lui parler de la repentance, parce qu'on a peur de le perdre comme ami. Ça, c'est le piège de ceux qui sont dans l'interpersonnel. Et ceux qui ne le sont pas disent « Ah ouais, j'ai bien vu que lui, il lui a témoigné, mais après, il est tellement devenu son copain qu'il lui a oublié de lui dire la suite. » Mais les défauts sont chez tous, hein. Mais forcément, on voit plus facilement les défauts chez les autres, n'est-ce pas? Il n'y a pas un truc avec la poutre et la paille? Ah oui, la poutre, c'est ce qui est dans l'œil des autres. La paille, c'est dans le mien. Oui, c'est ça. Donc, on doit aller au-delà des relations pour présenter le choix, donc c'est-à-dire la repentance. Et puis, les stratégiques, ben, ils perçoivent des situations, mais ils peuvent tellement être stratégiques que ça devient un peu manipulateur. Et là, tu dis, ah ouais, je l'ai reconnu. Ah ouais. Donc, le défi, la suggestion, c'est de s'interroger sur la perception qu'on a des personnes et que ce ne sont pas des choses ou qu'elles ne sont pas là pour venir faire... tu sais, j'en ai eu aux 7 semaines, j'en ai prêché 10. Les gens ne sont pas tes proies. Ce n'est pas un tableau de chasse qu'on fait, hein. Donc, attention à la manipulation quand on est là. Et la dernière approche, donc l'approche serviable, c'est on agit pour ses amis, ses voisins, et donc concrètement pour les plus fragiles, mais pas que. Et on peut être tellement au service qu'on en oublie l'annonce de l'évangile. Ça aussi, on a plein d'exemples dans la tête, hein. Si on n'est pas de ça, on se dit « Ah ouais, tu vois la Croix-Rouge, hein, c'est bien, ça a bien commencé, mais qu'est-ce que c'est sans Jésus maintenant ?» Oui, c'est facile de critiquer. T'as fait quoi, toi ? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là, donc ce n'est pas grave. Et donc, on doit apprendre à formuler au nom de qui on vient, au nom de qui on fait cette pratique. Voilà. Et ça s'apprend aussi. Donc à chaque fois, vous avez les points forts, les risques et les suggestions pour détourner pour dépasser le risque. Ne vous focalisez pas sur le risque. Parce que si vous êtes dans un domaine, enfin vous êtes forcément dans un domaine, si vous regardez le côté négatif, vous allez vous faire peur ou vous allez vous amender vous-même. Surtout pas. La Bible a dit que si quelqu'un prophétise, ensuite qu'il se taise, et ce sont les autres qui jugent. Pareil pour toi, sois conscient du défi, mais tu ne seras jamais parfait, parfaite. Donc ce n'est pas grave. Fais ce que tu as à faire. Et comme on a le droit à l'erreur, c'est ça, hein? Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Donc comme on a le droit à l'erreur, ça va. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas profité des 5 secondes pour les questions, tant pis pour vous. Non, vraiment, ça va ? C'est clair ? Soit vous dormez bien, soit c'est vraiment clair. Mais je suis sûr que vous êtes là, donc... Oui, bon, ça, c'était ma mise en page pour... Alors, là, donc on passe à quelque chose que je voulais revoir aussi avec vous. Donc là, ce matin, on a fait l'amplification de ce matin. Et donc, on passe... Alors, c'est pas à deux, parce que ce matin, on avait déjà vu 2 points, mais j'ai fait un truc de récupération sur le tas d'un truc que j'enseigne en entrepreneuriat social, mais c'est pas grave. Du coup, ça fait d'une pierre 2 coups. Ceux qui sont un peu dans le projet de l'antenne, bah, ça leur donne un peu des billes. Et en même temps, je crois que vous réfléchissez un peu... Comment vous accaparez la mission, la vision, c'est ça ? Il y a des chefs ici ? Ah, merci, c'est affreux. Un chef, c'est fait pour cheffer. Donc du coup, ce que je vous propose, alors c'est plutôt une approche universitaire, parce qu'on mélange beaucoup les missions et les visions, je trouve ça dommage, personnellement. Alors après, je peux comprendre qu'on ne met pas toujours les mêmes choses derrière les mots. Je vous propose donc de mettre des choses derrière les mots et de les clarifier. Ça peut faire un peu un côté universitaire ou cérébral, comme vous voulez. L'essentiel, en tout cas, c'est de mettre des mots pour clarifier les choses. En plus, vous êtes dans cette démarche, donc ce serait dommage de mélanger mission et vision, parce que c'est pas du tout la même chose. Et on a beau citer ce verset comme un mantra, faute de vision, mon peuple périt, c'est juste dommage, parce que le mot vision, il n'existe pas en hébreu à cet endroit-là. Mais c'est pas grave. C'est pas comme si on devait étudier la Bible. Non, alors ça, on passe. Voilà, c'est ça. Laissez tomber le truc d'avance. Voilà. Donc, il faut une adéquation. Donc là, on est sur un truc normalement d'entrepreneur social, mais c'est pas grave, hein. On doit être en adéquation entre son projet d'évangélisation ou son projet d'église, et là donc son projet professionnel, et sa destinée. Je dois être en adéquation avec qui je suis. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas bien dans leur peau. Il y a trop de chrétiens qui sont frustrés. Non, vous ne connaissez pas, vous êtes dans une église parfaite. Je comprends que ce ne soit pas facile de comprendre. Je vous envie. Il y a trop de chrétiens frustrés. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas bien dans leur basket. Et ça génère de la tension. Et dès qu'il y a un conflit, eh ben, c'est l'occasion. Et je ne dis pas que les gens qui partent ou qui sont en conflit ont tort. Absolument pas. Et je suis ici et je vous dis que ce n'est pas parce qu'il y a des conflits et des gens qui partent que ceux qui partent ont tort et que ceux qui restent ont raison. Absolument pas. Et là, je fais le prophète. Hein. Et si vous voulez, je vous dis « Verse the Lord hein, » si ça fait mieux. Ainsi parle l'Éternel. Parce que pour le coup, il n'y a rien de pire que de juger les gens avec des bons points. S'ils restent, c'est les bons. S'ils partent, c'est les mauvais. Foutaise diabolique. Par contre, on a des choix à faire. Et chacun les fait. Des fois sans âme et sans conscience. Mais des fois, on le fait en âme et conscience. Et je vous conseille de les faire en âme et conscience. Mais ce que je vous conseille, c'est d'être en adéquation entre votre destinée et ce que vous faites. Ça évite les frustrations, et quand il y a moins ou peu de frustrations, ça évite les conflits d'église. Moi, je suis dans une église depuis 9 ans où il n'y a aucun conflit. Écoutez, si vous voulez, je vous dis que je vous le jure devant Dieu. Alors, Luc, il ne faut pas jurer. Non, il ne faut pas jurer au nom de Dieu. Hein ? Attention au raccourci, encore une fois, là-dessus. Donc, je ne suis pas en train de jurer au nom de Dieu. Je ne prends pas Dieu à partie pour moi. Je vous dis juste que devant Dieu, je peux vous dire que je n'ai pas de conflit dans mon église. Et j'aime dire mon église dans le sens affectif et pas du tout possessif. Parce que quand on a des personnes qui sont bien dans leur peau, on a 90% de problèmes en moins. Et donc on en a puisqu'on n'est pas parfait. Déjà, tu mets Luc dans une église, c'est déjà l'église, elle est plus parfaite. Alors, et je le pense sincèrement. Si mon église ne m'avait pas, elle serait plus parfaite. Ben oui. Eh bien, on pouvait oser. Eh bien, c'était un bon moment pour le caser. Tiens, bien vu, Florence. 1 point pour les femmes. Donc, du coup, on rééquilibre le match. On est reparti, on relance. Donc, on doit être en adéquation sur ces choses-là. Et donc, forcément, la mission, la vision, et pas dans l'autre sens, les valeurs, la stratégie et les objectifs. Et donc, ce qu'on appelle les développements universitaires, on dit qu'on peut mettre un sixième... avec ce qu'on appelle les plans d'action.
mais tout le monde n'est pas d'accord dessus en disant que les objectifs, c'est déjà une façon de mettre les plans d'action. On est libre de le faire. Nous, dans notre église, on rajoute plan d'action. On n'est pas obligé, c'est pas grave, c'est pas une faute. Par contre, ça a du sens de dissocier mission et vision et de ne pas mettre vision en premier. Dieu est, EST, hein. Dieu est avant de faire. Et il veut qu'on soit avant de faire. Donc je dois être, la mission c'est la raison d'être. Je suis quelqu'un avant de réaliser quelque chose. C'est parce que je suis quelqu'un que je peux entreprendre. C'est parce que je suis quelqu'un et que je sais où je vais que tant pis si je passe par la Belgique.
Mais il insiste, mais il a quelque chose avec les Belges une fois.
Non, ma femme travaille en Belgique et j'aime les Belges. Et d'ailleurs, ils traitent leurs vieux beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Et ils mettent du budget beaucoup mieux que nous pour les vieux. Et je dis les vieux parce que c'est comme ça qu'on dit en Belgique. Voilà. Et ma femme, elle a une prime de vieux. Parce qu'une fois qu'on a passé 50 ans en Belgique, les salariés, ils ont une journée de plus parce qu'ils sont vieux. Et quand ils atteignent 53 ans, ils ont 3 journées de vieux. Donc ma femme, elle a des jours de vieux. Voilà. Bravo la Belgique. C'est difficile pour des Français de dire bravo la Belgique, hein, une fois. Et puis alors des fois, quand on va trop souvent en Belgique, on n'a pas trop envie de dire que c'est bien.
Ok.
Mais n'importe quoi, ce Luc. Alors, mission, donc c'est la raison d'être. La vision, c'est le cap. Et le cap, ça veut dire quel impact je veux avoir sur la société, quel impact je veux avoir sur les gens de mon entreprise, quel impact je veux avoir dans l'université, quel impact je veux avoir dans l'église ou au travers de l'église. Donc, c'est autant personnel que collectif. Vous pouvez vous appliquer ça autant à vous que au collectif, soit d'une église, soit d'un groupe restreint dans l'église. Quelle est ma raison d'être ?
Ben, je sais pas, moi, c'est une église. Non, c'est pas une raison d'être, ça. Non.
De poser qu'on est fils et filles de Dieu, ça, c'est mieux. Et de poser qu'on est des sacrificateurs et des rois, c'est mieux. Ça, c'est plus une raison d'être. Mais de dire qu'on est une église, c'est pas une raison d'être. L'église, c'est un moyen.
Oh, Luc ?
Ben oui, je vous rappelle qu'au ciel, dans l'éternité, il n'y a plus d'église, hein, les gars. Pardon pour les gars, c'est une expression aujourd'hui pour impliquer tout le monde, mais ça, c'est la déformation à l'université. Et dans le ciel, il y a l'épouse, mais il n'y a pas l'église. L'église, c'est l'épouse. Mais il n'y a plus le principe de l'église. Parce que l'église, c'est un moyen sur la terre. Notre finalité, c'est d'être épouse. Ou si vous voulez, d'être fils, fille de Dieu. Ça, c'est une finalité. Pas l'église. L'église est un moyen. Et je ne sais pas pourquoi dans nos églises évangéliques ou charismatiques, on a mis l'église comme un absolu. Mais non ! C'est ma destinée personnelle en corrélation, en codépendance avec la destinée des autres et donc de la destinée collective. Et on marche dans une tension entre ma destinée personnelle, ce que je fais, René ne peut pas le faire. Bam ! Bien fait ! Oula, ça crie. Bien fait ! Je ne veux pas que quelqu'un fasse ce que je dois faire. Et ce que Charles doit faire, il le fait. Point barre. Et en même temps, je dois dépendre des autres.
Donc Hélène ne peut pas dire « Moi, c'est ma destinée, les gars, vous faites ce que vous voulez, moi, je fais mon taf. »
Non, ça ne marche pas comme ça. Eh non, Hélène, tu ne peux pas le faire. Voilà, t'as compris ? Ou je dois le redire. Hélène ne peut pas faire son job toute seule. Et pourtant, elle doit le faire quand même toute seule. Re-amène. Oh, mais il nous tord la tête. Mais la Bible est tout sauf quelque chose de simpliste. Le royaume de Dieu est là, mais il n'est pas encore là. T'as compris quelque chose, toi ? Dieu est un, mais il est 3 personnes. T'as compris quelque chose, toi ? Il dit qu'on est déjà sanctifié, mais qu'on doit être sanctifié. T'as compris quelque chose, toi ? Et on veut tout simplifier. Merci. Moi aussi, j'essaye. À force de simplifier à outrance pour que tout le monde puisse accepter le truc, on en arrive à un évangile simpliste qui est absolument dénaturé et où on a enlevé l'essence de l'évangile. L'évangile nous cassera toujours la tête. On ne saura toujours pas où poser notre tête comme le maître. Et ce n'est pas seulement géographique ou physique, c'est je ne peux jamais aboutir à un absolu. Et même les théologies qu'on apporte des fois, elles ne sont pas aussi abouties que ce qu'on voudrait bien dire. On est tous d'accord que le mariage, il doit être fait dans l'Église. Il n'y a aucun verset qui dit qu'un mariage doit être fait dans une Église et il n'y a aucun exemple d'un mariage dans une Église. Et pourtant, on est à cheval dessus dans le monde évangélique, comme si c'était un absolu. Par contre, tout le monde est d'accord qu'il faut fermer les yeux dans la louange. Et il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut fermer les yeux dans la louange. C'est incroyable. On est incroyable. Par contre, l'Évangile dit qu'on doit aider les pauvres. On ferme les yeux, c'est pas écrit. On doit aider les pauvres, c'est écrit. Plus d'une fois, plus de 10, plus de 20, plus de 30, plus de 1000, plus de 2000, 4000. 4000 fois. Mais on prêche des ministères dans l'Église, parce que tu as compris avec Éphésiens 4:11, on a fait le tour de la Bible. 8000 versets sur la justice. 6828 fois le mot Yahvé. Et Yahvé, ce n'est pas l'Éternel, je suis désolé. Yahvé, c'est je suis celui qui suis pour l'éternité. Et dire l'Éternel, c'est déjà un raccourci simplificateur. T'imagines que tu lirais 6828 fois je suis. Eh bien, ça te donne le ton que tu as intérêt à être toi, dans le bon sens du terme, intérêt. Et que si Dieu est, alors il veut que je sois. Et ensuite que je dise et que je fasse. Mais on a un évangile simplificateur qui rassure les foules et qui fait du nombre. Mais Jésus ne veut pas le nombre. Il sait que la foule ne le suit pas. Il sait que la foule qui lui dit « Bravo, merci le multiplicateur de pain » est la même foule qui l'amène à la croix. Jésus n'est pas dupe, mais pourtant il fait le bien. Mais les disciples, c'est 12. 70, groupe élargi. Le cap. Quel impact je veux avoir sur la société ? Personnellement, et Luc doit faire des choses qui le concernent lui tout seul et il rendra des comptes lui tout seul. Mais Dieu demande aussi à Luc de travailler avec les gens autour de lui. Et il demande à ces autres personnes, les Hélène et compagnie, de faire leur job, mais de faire aussi celui qui est collectif. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'on est soit tenté de faire que avec les autres, c'est plus rassurant, mais du coup, on désexiste. Soit je fais tout seul et je néglige les autres. Jésus a inventé quelque chose qu'aucune autre religion n'a fait et n'a proposé. Le salut est individuel, le développement de la vie spirituelle est collectif. Tu ne pourras jamais, 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 jamais passer ça si tu veux être disciple. Ma vie personnelle, c'est Jésus. Moi et Jésus, Jésus et moi. Moi et Jésus, Jésus et moi. Oui, mais la vie spirituelle, elle se développe sur le collectif. C'est Jésus qui l'a inventé. Il n'est pas le chef de Philippe, il est le chef de l'Église. Bien fait pour toi, Philippe. Bam. Non mais, le gars, il s'est cru quoi, là ? Tu sais, Philippe, c'est un prétentieux, on ne dirait pas comme ça. Hein. Mais non, mais justement, c'est parce que c'est pas vrai qu'on peut le dire. Oh, Hélène, franchement, tu le connais pas. Non, je blague, bien sûr. Non, mais c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Si jamais ils se demandaient s'il connaît Philippe, il est en train de le tacler sur un truc, c'est pas son point faible. Hein. Non, non. On est chacun avec notre destinée et on est chacun ensemble dans la même destinée. Et ce n'est pas simple, mais c'est ce que Dieu veut. Et c'est un défi pour chacun de nous, c'est un enjeu et c'est un défi qui nous fait grandir, qui doit nous faire grandir. Les valeurs, c'est ce qui nous guide. C'est quoi tes valeurs ? Oh, l'amour, le pardon. Non, ça, c'est le simplicisme évangélique. Ce sont quoi tes valeurs ? Il y aurait de quoi faire aussi un autre test pour définir ces valeurs. Je crois qu'elles sont au nombre aussi d'un truc comme 30 ou 36, d'ailleurs, je crois. Tiens, c'est marrant. Ouais, je crois. La stratégie, les orientations à moyen et long terme. On parle de choses qui peuvent éventuellement se réviser, mais pas trop. On ne change pas la mission. Hein. La mission, c'est donnée par Dieu une fois pour toutes. On la découvre, on la redécouvre, mais elle ne change pas la mission. Et même si quelqu'un me dit « Non, mais un prophète peut devenir apôtre », oui, mais c'est parce que Dieu voulait qu'il soit apôtre et que peut-être il lui a fait faire un passage par le prophète ou n'importe quoi d'autre, hein, d'ailleurs. Mais la mission reste la même. La raison d'être ne peut pas changer. Et les objectifs, eux, ils peuvent être adaptables en permanence, changer en permanence, c'est pas un souci. Parce que justement, comme ils sont clairs et mesurables à court terme, on peut les modifier à court terme, c'est pas gênant. Et donc l'Église doit être... Comment ? Fixée sur la mission et la vision, ça ne bouge pas. Et en même temps, elle doit avoir un côté agile qui s'adapte à la société, à la situation, à la météo presque, j'allais dire, sociale, ou à la météo politique. Et donc, on doit être en capacité de réagir. Une Église missionnelle apprend à être agile et elle se débrouille toute seule, même si jamais on lui a enlevé le pasteur ou les responsables. On fait le confinement un mardi du mois de mars 2020. C'est ça, on a confiné un mardi. Moi, le vendredi, je suis au lit. Puis costaud, hein. J'ai frôlé l'hôpital, donc je suis bien au fond du lit pendant 15 jours, en incapacité totale de gérer des téléphones, des mails, de quoi que ce soit. Je gèle dans mon lit pendant une heure d'affilée, je grelotte, on n'avait pas encore su que c'était les symptômes de la Covid. Je gèle pendant une heure, glacé, sans couverture, le chauffage à fond, pull, gants, écharpe, truc de ouf. Et après, l'heure d'après, je suis vidé parce que mon corps est tellement s'est recroquevillé, incapable de sentir mes muscles. Et une heure après, je transpire. Ça coule tellement je transpire. Donc, incapable de rien gérer. Hein. Là, je veux dire, il n'y avait plus de Luc. Donc ça, c'est le vendredi. Le dimanche, on sait qu'on ne peut pas faire le culte. Ben, les gens de mon église sont débrouillés. Moi, je n'ai rien fait. Dans les 3 semaines qui ont suivi, je n'ai rien touché au culte. J'étais même pas là. J'ai découvert tous les mails après coup. Bon, qui c'est qui s'occupe de ça? Ben, ça, c'est Joe. Non, mais là, ça, c'est Tom qui peut le faire. Ah, ben, ça, c'est Martine qui peut apporter ça. Et ben, Béatrice va aussi faire ça pour que la technique, ça roule. Zoom, premier culte le dimanche. Et Zoom interactif, comme on faisait dans nos cultes. Tranquille. Luc, il n'est pas là. Tant mieux, bien fait. C'est ça, une église missionnelle. Ça veut dire que même s'il y a des gens qui sont responsables, ce n'est pas eux qui font le job. Le job, c'est tout le monde qui le fait. Parce qu'on est concerné et parce qu'on ne peut s'adapter. Et du coup, une église missionnelle, c'est ça. C'est une église, quel que soit le nombre, on s'en fout. Mais elle repose sur des petits groupes qui, ces petits groupes, peuvent être hyper malléables et super modulables. Nous, des fois, la même semaine, on dit le culte, il n'a pas lieu dimanche matin, mais samedi soir. Hey, t'as cru quoi? C'est le dimanche. C'est le jour officiel du Seigneur. C'est pas sûr. Pas sûr. Peut-être que c'est le samedi. D'ailleurs, Saturday, Sabbat. Bon, bref. En tout cas, les choses à court terme doivent être faisables. Alors, on va pas faire ça maintenant, mais je vous laisse ça comme un outil, parce que on va pas non plus faire ça jusqu'à 22h. Hein. Même si Jérôme, il a dit qu'il voulait rester là jusqu'à minuit, on va tous le suivre. Et du coup, il s'en va. Mais non, mais t'énerve pas, Jérôme, c'est une blague. Donc, la raison d'être, elle touche à la personnalité de soi ou de l'Église. Hein. Forcément, si on parle d'un groupe, on va faire ça sur un groupe. Si on parle de la personne, sur la personne. Donc, le MBTI, c'est un test qui est gratuit, qui est en ligne. Je rappelle que c'est le test le plus utilisé dans le monde et que Carl Jung, qui n'est pas une bonne référence, surtout en fin de vie, son père était pasteur et il a fondé ses 16 tempéraments sur les 4 évangiles. Et ça, ça claque. Et c'est le test le plus utilisé au monde. 70% du monde occidental utilise le MBTI. 30% les centaines et les centaines d'autres. Donc ça te donne un peu le ton du sérieux de ce truc-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est fondé sur les 4 évangiles de Jésus. Donc le côté roi, le côté serviteur, le côté humain, le côté divin. Matthieu pour le côté royal, Marc pour le côté serviteur, Luc pour le côté humain, Jean pour le côté spirituel. Et ne suivez pas la méthode catholique, elle n'est absolument pas carrée. Matthieu, c'est l'intellectuel qui fait référence en permanence à la loi, comme un roi le ferait. Il parle du royaume des cieux, c'est le seul qui utilise l'expression « le royaume des cieux », et c'est que dans l'évangile de Matthieu. Les rois, qui ne sont pas des rois mages, ce ne sont pas des rois, les gens. On peut laisser la société dire que ce sont des rois mages, ce sont juste des mages. Mais ça nous plaît moins. Peut-être qu'en mettant roi, ça ferait moins magicien, justement. Non, ce sont des magiciens, point barre. Et ce sont des magiciens qui viennent honorer Dieu. Bien. Et on leur a pas demandé leur carte d'église.
On a accepté leur argent.
Mais on a accepté leur cadeau. Comme le temple de Jésus, le temple de Dieu avec Salomon qui est construit qu'avec des matériaux venant de pays idolâtres. Aucun bien, aucun matériau cachère de l'Israël. Hein, en passant. Luc, il ne faut pas accepter les subventions du monde. Ah bon? Et au nom de quoi? Mais c'est de l'argent sale. Ah bon? Mais il sort de ma poche, les gars. Il sort de la TVA et des impôts. Tu crois que c'est l'argent sale? Non, c'est mon argent. Je veux justement le réutiliser à bon escient plutôt qu'il parte pour financer des films érotiques ou qu'il aille qu'on donne de l'argent à Act Up, une entreprise très homosexuelle. Je préfère récupérer l'argent, je vous le dis, moi. Je suis comme Mère Teresa, si je peux me permettre. Mère Teresa dit, donnez-moi tout l'argent sale du monde, y compris de la mafia, je peux faire la blanchisseuse. J'aime ça. Moi, je préfère récupérer l'argent, qu'il soit utilisé à bon escient.
plutôt que de le laisser utiliser par des gens malveillants. Donc, le MBTI, ça serait intéressant, c'est plutôt la personnalité. Les types d'intelligence, c'est un site qui s'appelle moimonavenir.com. Vous tapez moimonavenir.com tout attaché, hein, moimonavenir.com, et vous mettez 16 ans de plus. Enfin, normalement, vous avez l'air d'avoir plus de 16 ans. Et vous faites le test, ça vous donne un type d'intelligence. WIR Entrepreneur, contraction de We Are Entrepreneur. Ça, c'est les profils entrepreneuriaux. Très intéressant pour les gens qui veulent entreprendre. Et très intéressant pour les gens qui entreprennent déjà. Très intéressant pour les gens qui font de la politique. Et très intéressant pour les gens qui gèrent une association. Et très intéressant pour les gens qui veulent se positionner dans un projet. Tu me positionnes où? Au début, à la fin, au milieu? Je ne sais rien, moi. Bah, fais le test, tu verras. C'est pas mal. Et talent today, donc comme ça s'écrit là, donc c'est le mot talent en anglais, hein, comme en français. Today pour aujourd'hui, on enlève deux fois le T, donc ça fait talent today, on tape talent today, bam, on arrive sur le site pour faire le test. Il y a une partie payante, mais il y a une partie gratuite, elle est intéressante. Tout ça pour mettre des mots sur qui je suis.
On ne s'invente pas un alias, on ne se fabrique pas un personnage, on ne se crée pas un fantasme. On met juste des mots sur ce que Dieu a dit de nous. Veille sur ton cœur plus que tout le reste. T'as cru que ça voulait dire quoi? Oh, mon petit cœur me touche pas, me fait pas mal. Hein. Mais non, c'est pas ça. C'est veille sur qui tu es et mets-le en avant. Et glorifie le Yahvé. Glorifie le Dieu qui est en étant toi-même ce que Dieu a voulu que tu sois. J'aime beaucoup le portrait de Jésus.
Bon, portrait de Jésus. Dans l'église catholique, vous avez déjà vu ça? Vous avez une grande affiche, vous voyez bien que ça symbolise le visage de Christ. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez des dizaines de visages de personnes et même des centaines de visages de personnes différentes. Ouais. Vous n'avez pas vu ça? C'est top, j'aime ça. On est chacun une partie de l'image de Dieu. Et donc on pourrait dire que je suis une partie de 10 milliards de Dieu. Je suis un 10 milliardième. Donc ça donne toute la petitesse, mais aussi toute l'incroyable grâce de Dieu qu'il m'a fait un petit peu de lui. Bon, Dieu est masculin, donc les femmes, ça ne peut pas venir de Dieu. Et donc, si on dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, c'est que Dieu a un aspect féminin, que c'est bien dommage que nos églises rejettent. C'est bien dommage. Et c'est parce qu'on oublie que El Shaddai, c'est le dieu Mabel. Ouais, ça ne fait pas très viril, hein. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mon œil, El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Suffisant. Je ne sais pas qui a inventé Tout-Puissant. Ça n'existe pas en hébreu. C'est le Dieu Tout-Suffisant. Le Dieu Mamel qui est suffisant pour son peuple. C'est le même Dieu, c'est le même Dieu que le Père, hein, mais c'est le même Dieu que David évoque quand il dit « Je suis comme un enfant sevré auprès de son Père ». Non, auprès de sa mère. Et rassurez-moi, vous avez la même Bible. David dit « Je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère ». Quand Jésus dit dans Matthieu, je vous ai rassemblé comme un coq sous mes ailes, comme une poule. Vous avez la même version ou pas? Est-ce que tu l'as embêté une fois comme ça? Jésus dit, je suis comme une maman poule. Tu trouves que ça fait virer toi? Moi non. Mais notre église a véhiculé que le côté père. Eh ben non. Si Dieu a créé la femme à son image, c'est qu'il a bien un aspect féminin. Oula, Luc, ça fait mal à la tête. Ben, c'est pas grave, tu prends des cachets après, ça ira mieux.
Encore mieux, quand il dit une femme qui allait oublierait-elle oui. son enfant.
Tout à fait.
Quand elle le ferait, moi je ne t'abandonnerai.
Moi je ne le ferai pas. Et on peut continuer encore, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Quand Dieu dit dans les actes qu'il a été comme. Il a pris soin du peuple d'Israël, c'est quelqu'un qui allait ses enfants. C'est pas non plus très viril. Mais il y a une centaine de versets qui ont une évocation féminine. En passant, le Saint-Esprit ne se dit pas « le » en hébreu, hein, dans l'Ancien Testament. Comment ?
C'est féminin.
On dit « la Saint-Esprit ».
Voilà, il y a l'aspect féminin.
Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui représente la mère ? J'en sais rien, on ne peut pas rentrer dans ces polémiques, enfin dans ces lectures-là. Sauf que, à force de penser que seulement père, de masculiniser le ciel, eh ben on en arrive à des problèmes de traitement des femmes. Et c'est juste un problème pour le royaume de Dieu. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ouf. Donc Jérôme, t'arrêtes d'en rajouter parce que...
On va pas finir.
Mais on va finir.
Vision. Et donc, ça, c'est pareil pour un projet d'antenne. Si jamais on avait un projet d'antenne de coopérative, sur un malentendu, eh ben on peut faire ça aussi.
Sur un malentendu.
Sur un malentendu. Sur un gros malentendu. Donc, on va faire aussi pareil. On va dire, c'est quoi la mission ? Donc forcément, la mission, tout le temps où vous êtes une antenne, je parle pour ceux qui soutiennent le projet, tout le temps où on est une antenne, forcément, c'est la mission de co-connexion. Tu ne peux pas te débrancher de ça. Par contre, déjà, la vision fait une différence. Et encore plus, les valeurs, et encore plus, les objectifs à atteindre. Et chemin faisant, le jour où vous êtes autonome, eh ben, c'est votre mission à vous, plus celle de COP. Mais ça veut dire, ça sous-entend qu'on y travaille. Donc, quel cap je veux ? Ben, je sais pas, moi... J'aimerais bien 5 maisons, 15 petits-enfants, mourir au lit pendant la nuit. Non mais ça c'est émotif, c'est pas ça ça. Ah, I have a dream. Ouais bon, si t'avais un dream à la Martin Luther King, pourquoi pas. Mais I have a dream pour faire mes petits caprices et mon petit centre personnel. S'il te plaît, fous ça à la poubelle. Clic droit, poubelle. Et dans la poubelle, tu vides la poubelle. Tu me suis ? Parce que sinon, ça revient. Donc les rêves, un peu... Oh oui, j'aimerais... Écoute, t'oublies. T'as le droit d'avoir des émotions, c'est légitime, mais on ne construit pas une vie chrétienne et certainement pas une mission-vision sur des émotions. Donc c'est pas... En fait, je sais pas, moi j'aimerais bien que toute la France connaisse Jésus. Et pendant que nous chantons tel que je suis sans rien à moi, je vais faire un appel. Donc, de quoi est-ce que je serais ? De quoi nous serions ? Suivant si je parle juste de moi, qu'on peut le faire juste à soi, hein, ça. Ou en collectif, pour un projet, une église. De quoi est-ce qu'on serait fier ? Oh, mais Luc, on ne peut pas être fier. Mais Paul, il a dit, je me glorifie. Ça veut dire quoi ? La Bible a dit, vous avez le droit de reconnaître vos qualités du moment que c'est sans comparaison aux autres. Et nous, nous l'humilité, je ne compte pas. Je suis misérable, petit, ridicule. Mais arrête ce misérabilisme, c'est diabolique. Il faut ni être présomptueux, ni s'écraser. C'est pas ce que Dieu a voulu. Adam et Ève, c'est ses partenaires de travail. Donc, Jésus fait un reset et il vient mettre la deuxième humanité, le deuxième Adam, pour dire, hé les gars, ok, vous êtes minables, vous êtes pourris, le péché vous a bousillé. Mais il y a une espérance en Dieu par le salut. Comment faire autrement que ce que les autres font ? Pas dans le sens de se comparer, mais dans le sens de dire, moi je veux apporter une plus-value, quelque chose de plus. Ah mais lui, ça fait très entrepreneurial. Ben relis l'Apocalypse si tu veux. Regarde ce que les églises ont chacun de différent. C'est bien la preuve que Dieu ne veut pas qu'on fasse comme les autres. Quel changement visible ? Eh ben, je voudrais que l'église... fasse des réunions. Mais... Attention, vous n'avez droit qu'à deux mauvaises réponses. Ah. Je voudrais que l'église rende gloire à Dieu. Dehors. Bien sûr que l'église doit rendre à Dieu, gloire à Dieu. Mais quel accent visible ? Ben, je sais pas, moi, faire des multiplications de pain tous les dimanches. Toi, ça, c'est concret. Et Jésus l'a fait. Il allait de lieu en lieu, il bénissait tous les endroits où il passait. Ouais, mais Luc, c'était des miracles et des guérisons. Bah, la bouffe, c'est pas, ça ne sert pas à grand-chose d'autre que le ventre. Ça sert à, il n'y a aucun impact spirituel. Qu'est-ce que tu veux changer ? Et comment tu vas le mesurer ? D'être honnête avec soi-même. Pas de se raconter des histoires. Bon, ça va, c'est la fin, on arrête dans 30 minutes. Ouf, parce qu'il commence à nous saouler, le gars. Les valeurs. Ah, je savais pas que je les avais mises. Génial. Bon, vous avez, on va pas le faire maintenant. Hein. Vous avez des valeurs, là. Mais attendez, avant de prendre les photos, je vais me mettre là. Non, mais ils prennent des photos, je suis jamais là. Bon, donc... Non, je blaguais, arrête.
Allez, non.
Mais non, arrêtez. Je vais bouger comme ça, tu vois. Hop. On ne voit, on ne voit plus. Donc,
il fallait juste au fil rouge.
Je sais bien, on se fait rire, c'est pas mal. Donc, quand on est devant ce tableau, on ne répond pas pardon. Hein ? Comme je suis un bon chrétien, je vais cocher amour et pardon. Waouh, ça fait chrétien. Non, non et non. Non, toutes ces valeurs sont issues de la Bible. Donc, il n'y a aucune valeur qui est mauvaise. Il n'y a aucune valeur qui est supérieure aux autres.
Même la débrouillardise.
Même la débrouillardise. J'aimerais bien qu'on jacobinise un peu plus nos églises. On jacobise. Parce que jacobinisme, c'est pas bon. J'aimerais bien qu'on jacobise un peu plus nos églises. Jacob, c'est un sacré filou. Moi, ma femme, Sonia, elle dit, si t'étais un personnage de la Bible, Jacob. Oh bah ouais, même de Jacob, toi. J'aime bien. Jacob, sacré filou, non? Non? Ça vous rappelle bien, Jacob? Alors, Jacob, c'était quand? Alors, c'est après Paul ou... non, c'est à un moment de l'Apocalypse, Jacob, bien sûr.
Avant Xavier Bertrand.
Exactement. Ah bah alors ça, on claque. Hein. Jacob, il y a son beau-père qui le truand. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Son beau-père lui dit, eh ben gars, t'auras que les brebis tachetées, machin. Jacob, il dit, pas de problème. Je vais te faire un petit machin grillagé. Les brebis en chaleur, je vais les mettre dessous, tu vas voir que je vais t'en récupérer un bon troupeau. C'est quoi? C'est de la roublardise ou de la stratégie? Attention à ce que vous allez répondre. Parce qu'un bon chrétien évangélique dit, c'est de la roublardise. Mais c'est de la stratégie, les gars. Et il y en a plein dans le Nouveau Testament. Marc-Roger qui dit à Esther, bon, s'il vous plaît, vous ne dites pas tout de suite que vous êtes juive. Mais monsieur, c'est du mensonge. Moi, j'aurais été conseiller de celui qui a écrit la Bible. D'accord. J'aurais dit, mais quand même, Mardoché ne peut pas pousser Esther à se préparer pour un roi païen qui couche avec toutes les femmes qui bougent à côté. Mais c'est scandaleux, ce roi. C'est le roi de la Bible qui a couché avec le plus de femmes, en tout cas identifiées dans la Bible. Moi, je suis Mardoché. Je dis, mais gars, tu ne pousses pas une juive dans les bras d'un goïm et en plus, vulgaire. Il dit, prépare-toi, sois la plus belle, sans le meilleur, dit, boy, boy. C'est incroyable. Non, mais ça ne vous fait rien, mais moi je trouve ça incroyable. Quelle stratégie pour être là au bon moment. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme cela que Dieu a placé Esther dans le palais. Ah là là, il y a tellement de choses à dire. Et je vais arrêter. Donc, justice, ah ouais, ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est bien. Alors, justice, amour, pardon. Waouh, ça c'est top. T'as droit qu'à 5. Hein. Bon, bah alors, maîtrise de soi.
Il
n'y
a pas souffrance.
Persévérance. Ça va pas, non? Persévérance. Eh ben donc, Dieu a voulu tout ça. Et donc, si on fait un test dans une formation dite personal branding, la consigne c'est que tu n'as droit qu'à 5 valeurs. Ah. Oh ben non, j'en veux 10. Non, 5 points. Oh. Pourquoi? Parce que tu as le droit de les avoir toutes. Sur un malentendu, dans la théorie, on peut y croire. Moi, je ne crois pas, mais bon.
Si tu veux te raconter des histoires.
La vérité, c'est que c'est comme la question avec Dieu. Dieu est disponible pour nous tous, mais on l'approche par un angle qui nous est propre. Ou sale. Elle molle. Donc, forcément, notre approche de Dieu, elle est juste, mais elle est totalement incomplète. Ma sanctification, elle est que partielle, elle est totalement incomplète. Pareil pour les valeurs. On ne te demande pas de choisir le catalogue entier, c'est juste du baratin, du bluff. Tu te racontes des histoires. Donc, quelles sont celles qui te parlent le plus? Moi, pour du vrai, je suis prêt à me battre pour la justice. Je suis prêt à donner ma vie pour ça. Curiosité, innovation, à fond les balais, les gars. Mais il faut innover, quoi. Pétard, faut sortir du truc. Faut être à la tête, pas à la queue. Ouais, c'est mon job, ça. Ah bah oui, c'est moi. Et coopération? Pas du tout. Ouais, tu gères une coopérative. Bah non, j'ai dû faire des progrès, parce qu'on peut aussi faire des progrès dans les choses qui sont pas bonnes. Coopération? Zéro. Moi? Zéro. C'est tout un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour un peu coopérer avec les autres. Sinon, en vrai, tout seul, je vais plus vite.
Mais moins loin.
Mais nettement moins loin. Mais moi, j'ai pas besoin de personne. Ma femme, elle dit toujours, lui là, il a besoin de personne. Et c'est vrai. Sauf que c'est faux. C'est fini, c'est fini. Il reste 30 secondes. Même pas. Donc, on est qui on est. On ne cherche pas à paraître chrétien. Non, on choisit les valeurs qui nous parlent le plus. Et si tu ne sais pas comment faire, t'élimines. Tu vas dire, bon, la non-violence, non.
Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, non. L'hospitalité, ouais, j'aime bien avoir des gens chez moi, mais pas trop. Oui, bon, laisse tomber. Les croyances, oui, bien sûr, j'ai la foi en Dieu, mais non, c'est pas spécialement un truc pour moi. D'accord, là, j'enlève. Hein. Liberté, ah oui, bien sûr. Ah ouais, la liberté, ça, c'est top. Ouais, si c'est une bonne valeur pour toi, tant mieux. Si c'est pas un truc pour toi, c'est pas grave. La droiture. Ah, mais si je coche pas la droiture, c'est pas bien. Non, t'as le droit de pas cocher la droiture. C'est pas grave. C'est pas forcément ton premier axe. Donc, en cochant les valeurs pour soi, et donc on le fait aussi si on a un groupe, et du coup, on détermine la tendance pour soi, les 5, et après on dit, on le fait dans le groupe, et on coche partout où il y a quelqu'un qui a coché quelque chose, et c'est assez étonnant comment on ne touche pas tout. Vous êtes 15 dans un groupe, il y a de fortes chances que vous ne cochez pas toutes les cases. Pourtant, vous en avez 5 chacun et il n'y en a pas autant. Et il est très probable que vous ayez 3 ou 4 qui ressortent parce qu'il y a plusieurs qui ont coché sur celle-là. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous savez que là-dessus, vous avez un point commun pour agir. Dans mon église, majorité ont coché coopération. Moi, non. C'est moi qui ai l'idée de la coopérative. Mais je suis le moins coopérant ou coopérateur de moi. Parce que l'Église était plus marquée là-dessus. Et donc on a dit qu'on mettrait, à l'issue de ce test, les valeurs, les 5 valeurs qui étaient en commun du collectif. Et tant pis pour ceux qui ne matchaient pas dedans. Pas tant pis dans le sens où on n'a rien à faire, mais c'est d'abord ceux de la majorité. Pourquoi la majorité? Parce que ça donne un sens de la raison d'être. Et du coup les autres. Et ça tombe bien, parce que je marche avec aucune des valeurs que tous les autres ont cochées. De ouf.
Est-ce que tu vois aussi un décalage entre ce que toi tu penses être et ce que les autres disent de toi? Non, toi t'es plutôt...
Alors on fait aussi sur ce qu'on pense. Alors Olivier, tu coches 5 cases pour Olivier. Alors Olivier...
créativité.
Ouverture d'esprit. Créativité. Empathie. Ouais. Créativité, oui. J'en avais un que tout à l'heure j'ai...
Humour.
Oui, il a de l'humour, oui.
Intégrité.
Ouais, moi j'aurais mis plutôt intégrité que... Bon, on va pas faire un match sur toi, je veux pas t'exposer après tout. Et on arrête là, on parle pas de vous, donc parlez pas de lui. Hein. Bon, en tout cas, c'est intéressant de faire ça. Donc, les gens ont bien repéré où j'étais, c'est trop facile pour moi. Je suis dans l'extraversion, je suis à 100%. Donc c'est trop facile que les gens me captent. Donc du coup, quand les gens font le test pour les autres, en général, c'est lui pour qui on a coché le plus vite les 5 valeurs. Dans ma propre vie, c'était comme ça. Les 20 ont coché tous. Le premier qui était fait, c'était « on a fait pour Luc ». Merci les gars, cool. Merci pour les boîtes. Maintenant, c'est comme ça. Et donc, ils m'ont mis là où ils n'étaient pas. Et moi, je me suis mis là où ils n'étaient pas. Et donc, on a fait comme eux. J'ai fait comme eux. Et je trouve que c'est encore plus génial que le gars qui est censé être le premier soit le serviteur des autres. Ah ben, ça remet plein de choses, ça met la tête à l'envers, mais ça recale des trucs dans le sens de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Tu veux toujours une église missionnelle? Ça coûte tout ça. Ah ben finalement, plutôt une église avec un pasteur qui prêche et un conducteur de louange qui prédique, non, qui conduit la louange. Ok, on arrête là? Ça va? Je vous les ai laissés avec plus de choses à faire que de réponses à vos questions. Vous n'avez pas posé de questions, donc tant pis, hein. C'est de votre faute. Du coup, on a avancé. Il y aurait tellement de choses encore à dire. Les objectifs, ben, c'est un peu la suite. On peut aussi travailler sur les objectifs. Je ne l'ai pas fait là, je n'ai pas voulu trop m'étaler. Mais voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, ce que je vous souhaite, dans l'étape où vous êtes, c'est de ne pas passer trop rapidement à autre chose. Il faut prendre le temps. Et il faut être sûr que tout le monde est dedans. Et c'est un mec qui va plus vite que la moyenne nationale qui le dit. J'ai jamais dû faire autant d'efforts que dans la coopération que dans plein d'autres domaines de ma vie. Parce que moi, je trace ma route, je fonce, il n'y a plus personne derrière. Nous partîmes à 300, je ne sais plus combien c'était là. Moi, j'arrive tout seul. Pas de problème, même pas peur. Et je peux faire 36 choses en même temps. Et donc, pendant un temps, je me suis considéré comme étant pas si mal que ça.
Ben non. Donc, que tu ailles vite, ou plus lentement, c'est pas grave. Et c'est les plus rapides qui attendent les plus longs. C'est comme ça. Moi, j'ai épousé une femme qui est lente. Ça fait rire. Tiens, ça leur fait penser à quelqu'un.
C'est sa sanctification ou c'est la tienne? Question.
Hein?
C'est sa sanctification ou la tienne?
Les deux, manger.
Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça me coûte plus cher à moi qu'à elle. Mais bon, ça fait rire. Parce qu'elle trouve que ça lui coûte plus cher à elle qu'à moi. C'est intéressant. Toute la première partie, les cinq premières années où on était mariés, je considérais que vraiment, c'est parce que je l'aimais. C'est pas macho du tout. Hein. Comme je l'aimais, bon, je pouvais tolérer qu'elle soit lente. Mais heureusement que t'as quelqu'un qui est lent à côté de toi, parce que sinon t'es un tueur. Moi, j'aurais bousillé toutes mes églises. J'aurais bousillé toutes mes églises. Et si j'avais été fou, dans le sens pas modéré et pas ralenti par ma femme, je serais à l'Élysée aujourd'hui, je parle pas président, je serais juste à l'Élysée et j'aurais grillé toutes mes ailes. Donc heureusement qu'on a des gens qui sont aux antipodes de nous. Heureusement qu'on a des lents, ont des rapides, et heureusement que des rapides ont des lents. Et on peut dire ça de tous les domaines avec les valeurs. Ce que je vous conseille, en tout cas en tant qu'église, dans un collectif, il n'y a rien de pire que d'aller vite. Et il n'y a rien de pire que de vite passer parce qu'on n'a pas envie de revenir sur ce qui n'a pas été bien. Et bien, il faut revenir sur ce qui n'a pas été bien jusqu'à ce que vous ayez passé le cap. Le cap, contrat d'appui au projet d'entreprise. Non, c'est pas celui-là. Ok ? Allez, je vais vous libérer, mais...
Des questions.
Il y a des questions ? Ah, moi, je peux rester encore, hein. Pas de soucis pour les questions.
On a quand même quelques questions.
Allez, on est parti pour les questions. Allez, une.
Alors pourquoi des questions ? Parce que c'est l'église missionnelle. Peut-être que vous attendiez autre chose que ce qui vient d'être dit, voilà.
Donc, sinon, on recommence. Hein.
Ah oui, on recommence, oui. Bah oui, le problème c'est que c'est 15 000 euros à chaque fois.
Ah bah quand on aime, on compte pas.
Ouais, mais quand même. Voilà, donc c'est surtout dans l'esprit église missionnelle. Parce que comme il vient pas demain, c'est important et que nous, notre objectif c'est d'être une église missionnelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Oui.
Ça vous a paralysé, là, non?
Non, ça donne du boulot.
C'est clair. C'est clair que c'est ça l'église missionnaire pour vous?
Non, il disait c'est clair que ça donne du boulot.
Ah. Oui.
Oui, je vais juste revenir sur l'aspect de l'évangélisation.
Il y a peut-être juste là, parce que comme c'est enregistré, et qu'il y a d'autres personnes, je sais, qui vont les revoir.
Vous avez pas ta question?
Et comme là, c'est une question qui vient de la salle, c'est important qu'on l'enregistre.
En fait, je voudrais revenir sur l'aspect de l'évangélisation. Ce que tu nous as expliqué et que tu as développé ressemble beaucoup plus à une approche personnelle. Ça veut dire, voilà, je peux être frontal, je peux être tout ce que tu as dit. Mais l'approche collective, je ne retrouve pas ça facilement. Depuis, je cogite, je dis, mais en tant qu'Église, bien évidemment, on est porté à être missionnel, mais cette approche nous interpelle beaucoup plus en tant qu'individuel. Quelle stratégie en tant qu'Église? Parce qu'aujourd'hui, dans le passé, on a vu qu'on avait des grandes campagnes où on pouvait aller, peu importe si on était frontal ou je ne sais pas quoi, on y allait. Mais aujourd'hui... Mais
qui était devant dans ce que vous faisiez avant? Qui prenait les choses en charge?
Un évangéliste, certainement.
Ah oui. Qui a une forme d'évangélisation, voilà. Qui n'a pas les six.
Voilà, oui.
Et donc les autres de l'Église.
Certainement, ça avait des lacunes, comme tu dis.
Oui.
Mais aujourd'hui, comment adopter une stratégie collective qui permette à chacun de se retrouver et qu'en même temps, les uns et les autres ne se disent pas « Bon, ben, puisque ce n'est pas une stratégie qui me correspond, je préfère me mettre de côté. » Parce que c'est trop facile de tomber aussi dans cette facilité-là. Et voilà, c'est un peu ça.
Une autre question? Donc, bien sûr, il faut faire la même chose que pour les valeurs.
Il faut détecter la tendance majoritaire, là, de l'Église, c'est trop, d'un sous-groupe de l'Église, mais pas d'un sous-groupe d'évangélistes, d'un sous-groupe, je ne sais pas comment vous appelez peut-être des groupes de maison, sauf qu'il faudrait les qualifier vraiment comme des groupes restreints avec une autonomie. Donc, dans le groupe de maison, on va reprendre la prédication de dimanche. Non, c'est pas ça un groupe de maison. Ça, c'est un groupe de répétition. Et c'est pas ça qui sert à l'Église missionnelle. Donc, il faut pouvoir faire de façon collective ce qu'on fait pour les valeurs. Et donc, il faut déterminer la tendance majoritaire. Pas majoritaire pour pas faire les autres, mais pour dire ce dans quoi on est le plus à l'aise et ce qui va nous demander le moins d'efforts. Et donc, si on allait jusqu'au bout ou si on faisait une semaine entière sur l'Église missionnelle, et ce ne serait pas trop, ça serait, il y aurait une journée que pour l'évangélisation. Et dans cette journée, on dirait, on détermine la majorité, ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça, mais ça veut dire que ça, c'est ce qui est le plus facile ou le plus inné ou le plus rassembleur. Et donc, on va le faire, mais on va prendre aussi celui qui est le moins rassemblé, où là, il y a une personne et on va voir comment on peut faire. Dans mon église, je suis le seul frontal, le seul, pas frontal, cérébral. On ne va pas organiser toute l'église autour de M. Maroni sur le cérébral. Donc on fait ce que les autres font majoritairement, parce que ça, c'est ce qui prend le plus les gens. Et donc c'est quand vous avez un moteur de collectif que vous attrapez le plus l'église dans sa globalité. Et donc on a pris les deux qui revenaient le plus fort. Et on le fait ensemble. Le cérébral, eh ben on le soutient dans la prière. Le cérébral, lui, va prêcher chez les francs-maçons. Moi, pour le coup. Je vais prêcher chez les catholiques. Et je fais des cours de philosophie qui retombe sur la Bible. Trop fastoche, pour moi. Du coup, l'Église ne me suit pas là-dessus. Donc les jours où je vais, elle dit juste ce jour-là, on prie ou on jeûne, selon où je vais, et selon le risque spirituel potentiel. Si je vais dans une loge blanche, on sait que c'est de la philosophie, rien de plus. Hein. Mais si c'est une loge un peu plus satanique, ça craint un peu plus. Donc du coup, l'Église, elle est quand même avec moi, mais elle n'est pas dedans. Parce que ce n'est pas la tendance des autres. Et ce n'est pas la peine que je les embarque dans une aventure qui va leur coûter trop cher. Et en plus, qui va les déstabiliser ou les décourager. Donc, on a intérêt à le faire. Effectivement, comme tu le dis, on libère chacun. Mais déjà qu'une église réussisse à libérer chacun dans son mandat, c'est juste huge, énorme. C'est juste ça qu'on doit faire. Parce que le sacerdoce universel, qui se réduirait à l'église du dimanche matin où il y a un qui fait la prédique, un qui fait la présidence, un qui fait la louange, ben, y a pas de place pour les autres. Hein. Tant pis, t'as pas été choisi. T'es pas dans l'élite. Dommage. Donc on a intérêt à développer des églises où les gens sont dans leur talent, dans leur mandat, et le font déjà dans l'église comme endroit d'entraînement. L'église, c'est un atelier. On fait quoi tous les dimanches matins? On adore Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi nos églises ne nous apprennent pas à être roi? L'Église a l'obligation, dans son mandat, d'aider les gens à adorer. Nous le faisons tous. Mais aussi d'aider les gens à régner avec Christ. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans l'éternité, je ne sais pas si on sera ensemble. Si on est dans la même, on ne va pas faire qu'adorer. On va gouverner. Il va y avoir des maires adjoints. Bon, là, là. La Bible va donner des gouvernements d'une ville, de 5 ou de 10. Vous avez aussi ça dans votre Bible? Il y a plus de versets sur régner avec Christ que de versets sur les ministères dons. C'est dommage. On n'entend quasiment jamais. L'Église missionnelle a l'obligation de dire à chacun, t'as un mandat, commence à l'exercer dans l'Église, c'est le lieu d'atelier, c'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu pour les bêtises. C'est le lieu où tu peux te planter, te viander, carapater, merci, je ne l'avais plus dans le bon sens. On peut se planter pour pouvoir exercer notre ministère lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, on reprend, on recharge les batteries, on réessaye, on se replante et on recommence lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour faire le business, le ministère, le boulot que Dieu nous a donné. Et donc, l'Église doit apprendre à gouverner à chaque chrétien. Nous n'avons pas tous les mêmes sphères d'autorité. Et donc, si vous voulez, on a des gens qui ont des sphères d'autorité comme ça, d'autres qui en ont comme ça, d'autres qui en ont des comme ça. Mais ce n'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. c'est dans un endroit où on se soumet les uns aux autres. Celui qui est le plus patron doit se soumettre. Et celui qui est le plus machin doit servir plus que les autres. C'est ça la définition de l'évangile et de l'autorité chez Christ. Il ne s'agit pas de rejeter l'autorité, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de l'aplatir dans le bon sens du terme pour que chacun participe à la gouvernance puisque nous allons tous gouverner avec Christ. Et on va juger les nations d'Israël. Waouh ! On va juger les 12 tribus d'Israël. Vous avez vu ce verset ? Est-ce qu'il est dans votre Bible ? Est-ce qu'il est dans votre Bible ? Nous allons régner avec Christ et nous allons juger les tribus d'Israël. De ouf ! C'est incroyable ! On va exercer une autorité avec Christ et à chaque fois, ce qu'on entend dans les églises évangéliques et surtout charismatiques, c'est « nous allons adorer Dieu toute l'éternité ». Ben, je veux bien, mais pas que. Pas que. On va gouverner. Donc, puisqu'on est en train d'apprendre l'éternité en adorant Dieu, apprenons la gouvernance, puisqu'on va le faire aussi dans l'éternité avec Christ. Et ça libère tout le monde. Ça remet chacun à sa place. Et ça déstresse ceux qui sont en autorité, parce que du coup, ceux qui n'ont pas d'autorité identifiée commencent à exercer une autorité. Et c'est ce qu'on appelle le partage de pouvoir, sans enlever l'autorité que Dieu a donnée à chacun, selon sa sphère d'autorité, selon son mandat. Il a donné les uns comme, les autres comme. Donc Dieu a donné des critères. Une dernière question ? Ou on arrête là ?
On va arrêter là.
On arrête là.
On va arrêter là,
c'est bien.